Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gameblog pour l'émission de la semaine d'actualité incroyable et internationale, n'est-ce pas mes aïeux?
Yeah,
bon, vous êtes tous là, c'est le podcast numéro 525 de la rédaction de Gameblog.
Absolument.
Et évidemment, on va faire le tour de l'actualité de cette semaine, riche en rebondissements ou pas du tout en fait.
Riche en fer aussi.
Si. Ok, Thomas, ouais. Tu es là, donc effectivement, on vient de t'entendre parler.
Da, hello. Bonjour.
Et bonjour, du coup, Thomas, comment vas-tu?
Je pense qu'on a dit que c'était international, donc un peu d'effort. Quoi.
C'est vrai, tout à fait. Il y a aussi Plume.
Ah, guten Tag.
Voilà. Et un certain Camille A.
Salut.
Voilà.
Putain, personne n'a fait en italien.
En toute sobriété. Sobriedad. Et pour finir sur la technique.
Si tu veux, on peut le faire. Voilà.
Ah, bah, bravo.
Bon. Ah, ouais, désolé.
Voilà, tu me feras penser temps. Que ce micro, on le jettera après la mission. Et voilà, les amis, eh bien, nous allons effectivement faire le tour de l'actualité avec le win, le fail. Dans le fail, je pense que tout le monde aura compris de quoi il s'agit, avec tous les reports et compagnie. La rubrique il y a 10 ans sur GB, évidemment sur Gameblog. Que s'est-il passé il y a 10 ans? Franchement, on se demande. Et les trois thèmes qu'on va aborder cette semaine, c'est très simple. Il y aura FF7 Remake que Plume a vu.
Non, j'ai joué.
En plus, il y a joué.
J'y ai joué.
Pendant 3 heures.
Oh,
et
oui.
Là, je pense qu'il y a beaucoup de jaloux sur Terre. Le thème numéro 2, ça sera Baldur's Gate 3, que Camille a vu aussi.
Ouais, juste vu, pas joué malheureusement.
Juste vu, voilà. Il nous en dira plus. Et le thème 3, ben, écoutez, on parlera tous du
Half-Life 3.
Non, pas
ça
du
parle
tout.
Que de 3 depuis tout à l'heure.
De l'anniversaire de la Switch, puisque la Switch a 3 ans aujourd'hui. C'est 3 mars, enfin pas aujourd'hui techniquement, mais. Cette semaine, si vous voulez.
Pour l'enregistrement.
Oui, pour
aussi,
nous, mais aujourd'hui, le jour du podcast où on le balance, ça sera déjà passé d'un jour.
Ouais,
mais
je crois qu'on fait toujours le bilan annuel hein, depuis qu'elle est sortie.
Tous les ans,
parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Allez, bah, pour voir si ça s'écroule pas, si elle continue sur
sa lancée. C'est la merde, on se fait racheter par Apple, je pense.
Si Nintendo va mourir.
S'il y a plein de jeux et si c'est la fin des temps, puis voilà. Et bien sûr, évidemment, ensuite, on aura l'anniversaire et le hors-jeu. À toute fin du podcast.
On va bien rigoler.
On va bien se marrer, n'est-ce pas,
oui,
les amis?
Oui, surtout avec l'orge, je vous garantis que vous.
Oh! Alors, jeu, il est spécial, moi, bizarrement.
Poufi, ça l'a mis dans un état de transe. Tu sais, il écoute Boogie Night et tout ça là, la nuit.
Il se relève la nuit, il
danse. C'est fantastique.
Il devient fou.
Ouais.
Et si on commençait avec le win?
Si
Camille.
Tu veux. Exact.
C'est quoi le win cette semaine, Camille? Tu vas tout nous dire tout de suite maintenant.
Et
allez,
oui,
go!
Bah, c'est la politique de GOG. Puisque,
tu mens.
Voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai menti. Non, en fait, comme vous le savez, sur les plateformes de jeux vidéo, notamment sur PC, notamment Steam, que ce soit Uplay, etc., et ils ont tous une politique différente pour ce qui est du remboursement. Actuellement, c'est vraiment Steam qui est devant et qui permet d'avoir le plus de facilité de remboursement. Mais du coup GOG, en sachant ce postulat de départ, a décidé aussi de changer sa politique pour que ça soit plus transparent, plus clair et plus simple pour les joueurs. Donc ils ont publié un message sur leur site officiel pour
un
dire que
d'alerte.
Désormais on pouvait se faire rembourser un jeu jusqu'à 30 jours après la date d'achat, et cela sans aucune limite de temps en fait.
De temps de jeu. Mais
donc
je trouve ça fou, moi je comprends même pas en fait.
C'est assez fou.
C'est-à-dire que tu peux finir le jeu et tu te fais comment rembourser ou pas?
Si tu suis les grandes lignes, oui.
Bah nos limites, c'est nos limites quoi.
Mais est-ce que si tu finis le jeu, ils le savent aussi? Ils le savent
forcément. Ils doivent le savoir.
Voilà. Donc si tu finis le jeu, peut-être qu'ils se disent non, toi t'as fini le jeu, donc on te remboursera pas.
Bah en tout cas c'est pas indiqué. Ils ont vraiment indiqué sans aucune limite de temps. Puisqu'ils ont expliqué qu'ils voulaient vraiment recentrer le joueur, l'utilisateur au centre de l'expérience. Et du coup c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y aura peut-être des abus qui seront faits.
Moi je suis sûr qu'il y a des limites, c'est pas possible. Même s'ils en ont pas parlé.
Ouais, ils ont pas.
Il doit y avoir un petit alinéa dans le truc. Au fait, si vous finissez le jeu, non en fait. On vous rembourse pas.
Parce que sur Steam, si mes souvenirs sont bons, c'est quoi? À la limite,
c'est 14 jours.
C'est 14 jours, c'est ça?
14 jours et 2 heures de jeu.
Voilà. C'est quand même, il y a quand même une limite de temps.
Il y a vraiment une limite de temps. Mais là, il y en a.
Ce qui est très honorable sur Steam, vraiment.
Bah oui.
Oui,
franchement, ouais.
T'as le temps de voir si vraiment.
2 heures, tu te fais une bonne idée, quoi, ça va.
Je pense surtout au studio, étonnant, hein. Comment ça se passe au niveau de
la thune,
de la rétribution, voilà. Ouais. C'est-à-dire,
exactement.
T'as fait une vente et puis 30 jours après, le mec a fait machine arrière.
Après, GOG supporte
GOG a des outils de, tu vois, d'analyse de votre temps de jeu, etc. Donc à mon avis, oui, c'est pas du tout signalé. Hein. Ça c'est vrai, c'est pas du tout signalé sur le communiqué, mais il y a des grandes chances quand même qu'ils, genre, t'y as joué 5 heures. Si t'as joué un jeu 5 heures, c'est comme si t'y avais joué complètement. Tu vas pas te faire rembourser après 5 heures. À moins vraiment que t'aies un bug bloquant dans oui, je sais ça. Pas quel jeu, mais et
je pense, à mon avis. Ils vont certainement voir aussi les gens qui abusent un petit peu trop. Ceux qui font ça un peu trop souvent, quoi. J'imagine.
Ouais, après, c'est comme sur Amazon, hein, en soi, les abus.
Oui, c'est ça. Quand tu te fais rembourser trop souvent, ils te disent attends, mais tu me caches quoi là? C'est quand même bizarre. Ouais, effectivement.
Mais bon, le consommateur est gagnant.
Bah là, pour le coup, oui, ça vaut le coup d'y aller, d'avoir un compte et d'essayer, quoi. C'est quand même une bonne chose, c'est bien,
alors
ça change.
Le signal. Alors, on a la fac sous les yeux maintenant, donc ça va être plus
mais
simple.
Ils expliquent bien qu'il n'y a pas de limite de temps et qu'ils
se réservent
le droit de refuser dans les cas individuels. Donc, effectivement, voilà, si tu as joué 50 heures au jeu.
Voilà, c'est ça. Ce qui est logique, hein, quelque part.
Il y a un terme qui m'étonne, c'est la confiance.
Ouh, bah alors toi.
Bah non, mais c'est la confiance envers les joueurs et donc envers l'être humain. C'est très étonnant de la part d'une grosse entreprise
comme
celle-là.
Si vous avez fini un jeu et que vous ne l'avez pas terminé, c'est pas pour ça que vous aurez le droit d'être remboursé. Voilà.
Tout à fait.
Eh ben à voir, mais n'en abusez pas, hein. Pensez aux développeurs.
Exactement. Parfait, merci pour ce win, donc Camille, effectivement c'est une bonne chose. Merci à GOG, ma foi. Quant au fail, Plume, c'est toi qui vas nous en parler.
Ah, le fail.
Et
le
là je pense fail, que tu vas pleurer avant d'avoir fini tes...
Non, je le garde pour tout à l'heure, je vous ai déjà
c'est
dit.
C'est vrai
ouais. D'accord. Le fail, bah, c'est que le coronavirus dont on a parlé assez longuement la semaine dernière
c'est quoi
a finalement eu la peau de la Game Developers Conference 2020. Qui devait se tenir du 16 au 20 mars prochain.
Et ça donc... fera moins de pollution et puis voilà.
Aussi, oui, c'est sûr. Mais surtout, le problème de cette annulation, qui est donc la conséquence de nombreux désistements chez des gros acteurs de l'industrie, que ce soit Sony, Microsoft, Electronic Arts, Oculus, Kojima Productions aussi, qui avaient annulé leur venue. Ça, plus les craintes de coronavirus, ça a entraîné le report de la Game Developer Conference à l'été prochain, sans qu'on ait de date pour l'instant. Mais le problème de ce genre de choses, c'est que pour les petits studios, indépendants ou autres, c'est quand même toujours des frais qui ont été engagés, que ce soit pour les déplacements, les logements, les visas aussi peuvent coûter quelque chose. C'est autant de frais comme ça qui vont peut-être ne pas être remboursés parce que les politiques de remboursement des transporteurs comme des logeurs peuvent ne pas convenir du tout à ce genre de choses. On peut très bien dire ah bah oui mais voilà coronavirus, GDC annulé, là, là. Non mais désolé, moi je m'en fous. J'en connais quelques-uns ici d'ailleurs qui ont des voyages bientôt qui pourraient avoir des légers problèmes malheureusement. Donc c'est vraiment les petits indés sont probablement très impactés par ce genre de choses et on pense à ces studios qui vont se retrouver un peu le bec dans l'eau parce que ce genre d'événement c'est fait pour être médiatisé, rencontrer des journalistes, rencontrer des futurs partenaires, des fois tu prépares des démos qui te prennent du temps donc de l'argent en plus et là y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout pour ces gens-là. Et le problème, c'est qu'il y a peut-être des studios qui vont être vraiment, vraiment, vraiment dans la panade. Alors, heureusement, il y a une petite lueur d'espoir pour certains. C'est qu'il y a un fonds d'aide qui a été créé pour justement subvenir aux besoins de ces studios indés qui seraient impactés lourdement. Ça s'appelle la GDC Relief Fund. Ça a été créé par Wings, donc qui est une société qui a été créée par Cassia Curran, Peter Henriksen et Audrey Le Prince, la française Audrey Le Prince, qui est la créatrice de The Game Bakers et de Women in Games France. Donc là, ils ont promis un pactole de $75,000 général à répartir entre tous ceux qui vont faire la démarche, tous les petits studios, tous les petits développeurs qui vont faire la démarche de vouloir être soutenus financièrement dans cette affaire. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais c'est vrai qu'après, si ça continue comme ça, et si on annule à chaque fois des gros événements 10 jours, une semaine avant que ça ait lieu, tout en sachant que, comme je vous le disais, les avions ou les autres transports et les logements, c'est pas des choses qui peuvent être remboursées aussi facilement. Il va falloir faire très très attention, hein, notamment pour le 3, qui pour l'instant est maintenu, mais
sait-on
jamais. Hein.
Une semaine avant.
Il faut prendre les assurances annulation, quoi qu'il arrive.
Ça coûte un peu cher, mais c'est vrai que les assurances, ça se gaffe bien, à mon avis. Hein.
Ah, là oui.
Là-dessus,
c'est certain.
Après, c'est vrai qu'il y a moins de tourisme aussi, donc bon, quelque part, peut-être que ça s'équilibre. Je sais pas.
En tout cas, gros soutien à tous ces,
gros soutien,
à tous ces développeurs. En espérant aussi qu'il n'y aura pas que Wings qui fera quelque chose et qu'il y aura aussi peut-être des plus gros, hein, je pense à Microsoft ou autre, qui pourraient peut-être lâcher quelques milliers de dollars aussi au passage.
Ouais, ils n'ont pas le temps.
Ouais, mais c'est des cacahuètes pour eux, donc c'est pour ça.
Ah bah c'est sûr que 75 000 dollars pour Microsoft, oui, c'est peanuts.
Enfin bon, voilà.
Parfait, merci beaucoup Plume. Donc pour ce fail, GDC reporté, et plus tous les autres reports qu'il y a eu aussi, et certainement d'autres à venir, j'imagine. Donc nous ne sommes pas au bout de nos peines, comme dirait Poufy, ou pas. Et si on passait à la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog. Avec ce cher Thomas qui va nous expliquer.
Quand ça a 10 ans, Thomas, c'est vrai que c'est lui, c'est le dernier
qu'on
regarde.
Écrivait, hein, bah bien sûr, c'est le dernier arrivé, c'est le plus jeune et tout ça. Donc il y a 10 ans, pour lui, c'était pas très vieux en fait.
Ouais.
Il y a 10 ans sur GB, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a écrit? Je vais dire, conneries encore ou pas?
Je vais dire, j'étais étudiant, mais non, en 2010, c'était fini.
C'est vrai.
C'était fini le bon temps.
Exactement.
Mais il y a 2 ans, toi, t'étais là, mon cher Traz.
C'est vrai déjà.
Tu nous parlais encore de chiffres. Toujours. Puisque il y a 10 ans, c'était la Wii qui faisait l'actualité. En l'occurrence, on fête les 3 ans de la Switch aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, la Wii, elle dépassait le score assez symbolique de 10 millions d'unités vendues au Japon, son archipel natal.
En combien de temps? 2 ans? 3 ans?
2 ans et 7 mois. Exactement. Très précisément, puisque Traz nous le précisait dans sa news. C'était le 28 février que ça arrivait, et du coup il y avait quelques petits comparatifs en termes de vitesse de vente pour atteindre justement ce score des 10 millions. Évidemment, on n'a pas parlé de la suite puisqu'elle ne fera jamais 20 millions au Japon. Hein, la petite Wii, elle s'arrêtera à 12,7 millions. Du coup, à l'époque, c'était la PlayStation 2 qui détenait le record de précocité, entre guillemets, évidemment. Et en fait, je vous ai dit une bêtise, c'est la PS2 qui avait mis 2 ans et 7 mois pour s'écouler à 10 millions d'exemplaires. À titre de comparaison, la Switch, justement, dont on vous parlera tout à l'heure, elle a mis 2 ans et 8 mois pour franchir la barre des 10 millions au Japon. C'était le 3 novembre 2019.
Aïe.
Voilà.
Quelle classe.
Ensuite, on va lâcher un tout petit peu les chiffres. On va revenir sur un studio qui fait énormément parler de lui depuis quelques semaines, puisqu'il s'agit de Media Molecule, qui se faisait racheter à l'époque par Sony Entertainment, qui devenait du coup l'un des studios à intégrer le SCE Worldwide Studios. C'est un peu comme le Marvel Universe, etc., mais dans le monde du jeu vidéo. Media Molecule, qui n'avait entre guillemets à l'époque encore accouché que de Little Big Planet, mais bon, qui nous avait déjà permis de découvrir un potentiel créatif assez extraordinaire, puisque c'était quand même une petite révolution à l'époque pour ceux qui y avaient joué. Tiens, encore une faute à corriger.
Oui, j'allais dire, je suis encore dans une autre news.
Dans une faute news de 10 ans.
Parce que je rajoute les fautes, donc dans celle-ci, j'ai retiré un truc. Voilà.
Il manque un P au géant Sony Commuter.
Voilà.
Bref, du coup, voilà, il y a 10 ans, après avoir sorti Little Big Planet, eh bien, Media Molecule se faisait racheter par Sony. Le studio avait été monté quand même par des anciens de Lionhead et Bullfrog, donc beaucoup de gens qui ont gravité autour de ce cher Peter Molyneux.
Pierre Moulin,
exactement, comme on l'appelle de ce côté-ci de la Manche. Et c'était encore un petit studio à l'époque, puisqu'ils étaient 34 employés en fait au moment du rachat. Et dès l'année suivante, eh bien, on sait évidemment qu'ils auront accouché d'une suite Little Big Planet 2 pour ensuite se consacrer à l'un des plus grands jeux de la Vita, qui est Tearaway, qui aura ensuite été porté sur PS4. Pour entamer, après un tunnel de 7 ans de développement, pour accoucher d'un certain Dreams, qui fait énormément parler de lui depuis quelques temps. Le test de ce cher Yann est dispo sur Gameblog.
Exact.
Et il y a fort à parier que c'est un jeu qui va durer, grâce aux nombreuses créations joueurs, comme un certain Little Big Planet à l'époque.
Exactement.
Et enfin, pour finir... Il a été très souvent question de brevets pour la PS5 ces derniers temps, en tout cas de brevets déposés par Sony qu'on imagine être utilisés sur la PS5, et Fasquill nous rappelait il y a 10 ans que Sony développe des fois des brevets pour ne pas forcément les utiliser. C'est un peu comme ça que ça se passe, puisque là c'était un brevet qui visait à voir les démos se dégrader en fait avec le temps. Donc Fasquill appelait ça des démos biodégradables. En l'occurrence, l'idée c'était d'user en fait le disque, puisque rappelez-vous, il y a 10 ans on fonctionnait encore avec des disques, même si on pouvait déjà télécharger des jeux. Et en gros, bah, plus vous utilisiez une démo, et ben plus vous alliez perdre en fait d'éléments, d'items, de choses comme ça, et ça allait devenir quelque chose d'inutilisable en fait, passé un certain nombre d'utilisations. Alors on sait évidemment que ça n'est pas arrivé. Mais par contre, y a certains éditeurs qui aussi des fois peuvent décider comme ça de mettre un coup d'arrêt à l'utilisation de telle ou telle démo. Ça se fait en tout cas sur des versions preview, ça existe. Il y a certains jeux qu'on nous envoie qui ont une date limite, on va dire, d'utilisation.
Exactement.
Donc on sait que ça n'aura pas été véritablement utilisé tel quel, mais tout ça pour dire que des fois, eh ben, on a des bonnes idées qu'on dépose pour finalement ne jamais s'en servir.
Exactement.
Voilà.
C'est le principe des brevets.
Autant vous dire qu'on verra peut-être pas toutes les inventions qu'on a vues déposées par Sony ces derniers mois sur la PS5 ou la DualShock du même numéro.
Nous sommes tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Thomas, pour cette rubrique il y a 10 ans sur Gameloc qui nous rappelle toujours des souvenirs intenses.
Et le temps qui passe.
Exactement.
De façon linéaire.
Que, déjà à l'époque, personne voulait faire les news sur les chiffres et c'est Trace qui se les coltinait.
Bah, je faisais tout. Tu ne te rappelles pas déjà ?
Même les fautes.
Exactement, ouais. Bah, ça, malheureusement. Hein ? Il n'y a que ceux qui ne bossent pas qui ne font pas de fautes.
Ok.
Si tu vois ce que je veux dire.
Pas mal celle-là.
Bref, allez, c'est l'heure de passer au thème numéro 1 et là évidemment tout le monde l'attend avec impatience parce que on va parler d'un jeu ultra attendu qui est en gestation depuis 7-10 ans, je sais plus exactement.
10 000 ans, je crois.
Qui est annoncé depuis 2015 en tout cas.
Oui, qui est donc Final Fantasy VII Remake que Plume a pu voir jouer pendant 3 heures et là évidemment il va nous en parler
absolument
en large et en travers.
J'ai fait partie des nombreux vénards parce que faut pas croire, hein, j'étais pas tout seul et on était
fallait pas le dire,
un
ça,
petit
merde.
Paquet un petit paquet de monde quand même à l'avoir pu l'essayer à travers le monde
exclusif.
Et donc voilà, on était jusqu'ici on était resté sur des vidéos, pas mal de screenshots, des trailers, des extraits montrés dans les différents événements ou la démo. La simple et toute petite démo qui avait déjà été utilisée pour le 3 dans laquelle bah finalement on passait à une demi-heure et c'était fini et on se disait qu'on en voulait un petit peu plus. Bah on en a eu un peu plus, ça y est, on a eu droit à 3 heures de jeu,
donc beaucoup plus en fait.
Voilà,
beaucoup 3 plus.
Heures de jeu sur Final Fantasy VII Remake. C'est l'occasion d'avoir des certitudes et pas mal de questions aussi par rapport à ce qu'on va avoir dans le jeu final. Alors les certitudes, c'est que ça va être beau à pleurer, mais ça on le savait déjà.
Et non pas
c'est
à pleurer.
La réalisation est absolument époustouflante du début à la fin de ce qu'on a pu essayer, que ce soit les modélisations des personnages, leur visage pendant les cinématiques, les effets pendant les combats, les différents environnements qu'on traverse, même les trucs les plus gris, les plus métalliques, les plus génériques normalement. C'est somptueux comme là quand on arrive devant le réacteur numéro 1.
Même les plantes ont fait de l'effet. Certains plans, positionnement de caméra, ça t'a rendu
absolument
toute chose.
Alors, je sais pas si c'est dans la démo parce que je l'ai pas essayé la démo qui vient de paraître là sur le PC, mais c'est vrai qu'il y a un plan de contre-plongée de Cloud qui regarde le réacteur à un moment où je me suis dit waouh, c'est quand même super bien foutu alors que c'est pas grand chose, hein. Mais vraiment ce moment là ça m'a rappelé des souvenirs. Bon,
c'est vrai que ça a l'air hyper peaufiné.
Bah, de ce côté là, ouais, il y a aucun doute là-dessus. Techniquement, c'est très propre et je crois que Digital Foundry a aussi fait sa petite analyse et a prouvé que c'était
oui, ils ont rendu les armes. Enfin, non, c'est bon.
Il y a pas de souci avec le jeu. Il y a quasiment aucun défaut à noter, que ce soit
framerate
et tous les effets qui sont utilisés, etc. C'est vraiment tout est parfaitement maîtrisé. L'Unreal Engine 4 là, il est bien
maîtrisé, quoi.
Bien maîtrisé par Square Enix.
Bon,
faut dire ils sont plusieurs centaines dessus, non. Donc oui, c'est un petit peu normal au bout d'un moment.
Et puis, ils pouvaient pas se louper dessus, quoi. C'était tellement attendu que bon.
Mais puis c'est pas leur
techniquement,
genre,
hein. Je parle en tout cas.
Techniquement, ils ont toujours été à peu près bien. Après, FF15 avait pris du temps parce que c'était un moteur maison là.
Oui, c'est sûr.
Ils se sont dit on va repartir avec autre chose et avoir les outils faits par d'autres personnes pour éviter d'en perdre encore plus. Et bon choix, vraiment bon choix.
Ils ont bien fait.
Visuellement, ça claque et c'est très fidèle. Dans le style.
Ah bah là tu retrouves vraiment FF7, hein.
À ce qu'était FF7. Alors FF7 c'était beaucoup de choses avec des personnages en SD, des décors en
bitmap,
tu vois, qui étaient en fond.
Exactement.
Qui avait un style qui était peut-être pas facile à recréer en quelque chose de réaliste et avec une échelle, on va dire, réaliste. Et bah en fait ça marche à tous les coups, que ce soit encore une fois le réacteur ou dans les rues de Midgar après avoir fait péter justement ce réacteur. C'est vraiment impeccable, on voit bien les choses et déjà l'intro de toute façon nous montrait à quel point ça allait être fidèle. Et d'ailleurs voilà, on l'a sous les yeux, vous voyez, hein, comme elle avait été diffusée il y a pas très longtemps. Voilà, visuellement c'est bon. Du point de vue des sonorités,
le test est passé. Ouais.
Du son, des musiques, c'est parfait. Il y a rien à dire. Je veux dire, les différents arrangements sont complètement fous.
Ils retrouvent exactement les mêmes musiques ou ils ont changé.
Ils ont arrangé. la plupart des musiques pour qu'elles aient plus de patates. Thomas, on avait déjà parlé, je crois que j'en avais déjà parlé aussi. Les trucs ont vraiment une pêche mais d'enfer et leur système de musique dynamique qu'on a ressenti surtout dans le chapitre 2 où c'est le battle theme qui passe en fond mais qui s'aménage en fonction de l'endroit où vous êtes, de la situation, ça donne des trucs, ça donne un truc vraiment cohérent et qui rend incroyablement bien. C'est un des trucs les plus fous. Pour l'instant, artistiquement et techniquement, c'est de la dinguerie. Voilà.
Et on rappelle d'ailleurs qu'à n'importe quel moment pendant que tu te bats, tu peux choisir de complètement ralentir l'action pour justement.
Alors justement, j'allais venir au style de combat. On
mais ça sur le plan technique, c'est quand même assez maboule aussi de pouvoir dégainer ça un petit peu n'importe quand.
Bah ça ressemble presque à ce que faisait FF15, presque. En mieux.
En beaucoup mieux.
Ouais, je vous ai jugé, je ne sais pas.
Le système de combat donc.
Mais c'est marrant parce qu'on voit les différentes attaques et tout ça un peu penché, un peu tordu comme ça, c'est marrant.
Ça fait comme
une espèce de HUD. Bah tu vois pas que les textes ils sont un peu comme ça, ils n'ont pas à plat.
Hein,
tu vois pas?
Non, c'est fait pour porter le regard au milieu de l'écran, je pense. C'est des lignes de fuite.
Ouais, mais c'est comme si t'avais un casque en fait.
D'accord. Bon,
ça s'appelle le souci du détail.
T'es sûr que tu vois bien tes lunettes?
Oui, je vois très bien. Mais
hoche la tête et vas-y.
Ok, bah je vais hocher la tête. Non, bon, alors le système de combat. J'ai vu beaucoup de personnes dans les impressions qui ont été postées qui disaient ah ouais mais il y a pas de tour par tour, mais si il y a un tour par tour, il a été annoncé au Tokyo Game Show.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils
avaient
dit.
Et ce sera du pur tour par tour. Le truc c'est qu'on a
en temps réel.
Non.
C'est soit l'un soit l'autre, un autre mode. D'accord. Okay.
Qui lui sera beaucoup plus proche de ce qu'était l'Active Time Battle du jeu d'origine. Et malheureusement, on n'a pas pu l'essayer.
D'accord.
On n'a pas pu le voir. Et de toute façon, même si j'avais pu le voir, j'aurais pas pu vous en parler. Voilà. Donc ça c'est une autre histoire.
Ceci le fait.
Donc on a ce mode.
On y va.
Actif, sur lequel on peut avoir à tout moment une envie de mettre la pause pour prendre le temps de d'enclencher d'autres choses. Alors vous pouvez choisir d'être 100% actif. Je vous l'ai déjà expliqué aussi dans les impressions. Vous pouvez occulter ce qui se passe dans les menus, mais à tout moment, vraiment, pour vous faciliter les choses, bah, ça met une pause active, enfin une semi-pause parce que ça continue à avancer, mais très lentement.
Un tout petit peu, ouais.
Et là, plutôt que de bourriner de façon écervelée, ce qui est vraiment une chose à ne pas faire dans les combats, eh bien, vous pouvez enclencher les sorts, les objets, les invocations et autres, sans oublier la Transcendance, qui est le nouveau nom de la limite en français, qui permet de balancer la grosse purée sur les ennemis. En général, il vaut mieux le faire contre les boss. Et donc, ce système de combat, on vous en a déjà parlé. Sur 3 heures de jeu où il y en avait beaucoup, parce que c'était essentiellement des séquences en ligne droite où on n'avait pas autre chose, malheureusement on n'avait pas d'exploration, on n'avait pas vraiment d'interaction avec d'autres éléments de la ville de Midgar, et bah ça marche super bien parce que déjà il y a le système des classes par personnage qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qu'il faut absolument gérer en fonction des ennemis qui vont apparaître à l'écran. Il va falloir penser à utiliser Barrette pour les ennemis à distance, qui pourra aussi servir d'ailleurs de diversion à ce moment-là. Changer ensuite pour partir au corps à corps avec un Cloud qui lui est un peu plus énergique, beaucoup plus rapide aussi pour esquiver notamment les attaques ennemies. Pense aussi à Tifa, qu'on a pu essayer enfin, donc qui elle est plutôt de la classe moine, donc corps à corps, très rapide. Et qui elle aussi fonctionne très très bien. Et Iris, qui elle est plutôt tendance mage, claire, qui elle balance des petites boulettes sur les ennemis, mais peut aussi se retrouver beaucoup plus, enfin, est beaucoup plus à son aise avec les sorts et qu'elle lance de façon beaucoup plus puissante. C'est toutes ces classes là, et visiblement on aura accès qu'à là à utiliser dans tout ce premier épisode qui se passe à Midgar donc. Et à chaque fois qu'on a pu avoir donc ces différents personnages avec nous, c'était pas toujours le cas, on n'avait pas le choix en fait dans chacune des séquences qu'on a essayé, mais on voyait bien les différences et on voyait bien comment tirer vraiment parti de leurs avantages et voir aussi un petit peu leurs inconvénients face à certains ennemis, parce que pour le coup Ce qu'a fait Square Enix aussi pour les ennemis, et je parle pas que des boss, je parle aussi des mobs, réussir à créer des ennemis sur lesquels il va falloir faire gaffe par rapport à certaines de leurs capacités. Je pense à des soldats par exemple qui ont des pouvoirs d'esquiver, les chiens qui sont beaucoup plus rapides que le simple grouillot avec sa mitraillette. On sent déjà que ouais, il y a un équilibrage qui est cherché, en tout cas une tentative de diversification qui est cherchée. Oui, je monte super bien les échelles.
Ouais.
Et donc on cherche vraiment à pousser à ce qu'on utilise toutes les capacités de chacun des personnages qu'on va pouvoir incarner quand on veut. D'ailleurs, dans les combats, vraiment, on switch au moment où on veut, comme
quelle
on
classe.
Veut. Donc, ça se passe extrêmement bien. Le système de combat est super convaincant. Il y a peut-être la caméra qui peut être un peu gênante par moment. Il m'est arrivé d'avoir des passages où ça s'emballait. Mais vraiment, de ce côté-là, impeccable. Et rien à dire. Et vous voyez
choc.
Ici les grosses bestioles. Alors c'est sûr que si vous vous rappelez les jeux de 97, il y a des fois on affrontait des bestioles comme ça, ça durait 2 secondes, là ça dure un peu plus longtemps. Mais comme ça a vraiment la pêche et que vous ressentez vraiment le côté stratégique, côté tactique de chacun des combats, bah ça se passe à chaque fois extrêmement bien. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Si je peux dire un truc sur les combats, moi il y a un truc qui m'a étonné dans ta preview, qui m'a étonné dans le bon sens du terme, c'est qu'il y a en plus justement une réflexion assez fidèle et avec plein de clins d'œil en fait aux fans de l'époque justement sur le profil des ennemis. Tu parlais justement de ces ennemis avec des griffes qui esquivent les balles, on l'a vu justement dans tes extraits de gameplay, c'était des ennemis qui avaient tendance déjà à esquiver les coups quand on les affrontait dans l'original. Donc on sent qu'il y a véritablement eu
un travail d'adaptation,
réflexion où ils sont allés chercher tout ce qui faisait le sel d'FF7 et tout ce qui différenciait chaque mob que tu pouvais croiser.
Parce que c'est vous qui allez le racheter, c'est vous.
Oui, mais du coup, ça te donne envie, ce que disait Plume, d'exploiter un petit peu mieux le système de combat à ton avantage. Alors, on sait effectivement qu'on n'aura que 4 persos pour une équipe de 3, mais c'est peut-être aussi justement pour laisser aux joueurs le temps de s'habituer un petit peu et de switcher comme ça à la volée. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel travail de recherche en fait sur ce genre de petits détails.
Et il y a autre chose aussi qu'on peut ajouter, c'est que dans tout ce qu'on a vu par rapport à ce qui existe dans le jeu original, il y a des séquences qui ont été ajoutées, notamment des cinématiques qui n'étaient pas du tout présentes dans le jeu original à ce moment-là, qui sont on va dire mise devant vous avec une mise en scène qui en plus est super bien, et que de ce côté-là ça rassure un petit peu sur ce que va faire Square Enix avec Final Fantasy VII Remake, c'est-à-dire essayer d'approfondir, parce que bon là on vous le dit, ça ne représente que un cinquième du jeu global normalement Midgar, même pas, il va falloir le remplir, et là pour le remplir ils vont nous proposer des trucs qui vont permettre d'explorer des choses qu'on ne savait peut-être pas forcément, peut-être qu'il va y avoir une façon de narrer l'histoire globale et certains des secrets qui entourent Cloud qui est très différente, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt bien fichu. Maintenant, comme je le disais, il y a beaucoup d'interrogations sur tout le reste. Exploration dans la ville de Midgar, comment ça va se passer, parce que là on avait chapitre 1 et 2, chapitre 7 et chapitre 10. Chapitre 10, c'est le moment où on affronte Apsu, donc une fois qu'on a été voir Don Corneo, il reste encore pas mal de trucs après, donc ça veut dire qu'on va voir beaucoup de chapitres, savoir comment ils vont être remplis, savoir comment chacun des districts dans lesquels on va aller, chacun des secteurs va être rempli, quelles sont les activités, avec quel personnage on pourra interagir, parce que pour l'instant, en termes d'interaction, nous, tout ce qu'on a eu, c'est taper dans des caisses et monter des échelles.
Et ouvrir
des coffres.
Et dans des boss
aussi. Trois choses qu'on a pu faire pour l'instant. Moi, personnellement, j'espère vraiment que ça ne va pas se résumer à ça une fois qu'on sera à l'intérieur de la ville et qu'on pourra se balader librement.
Non, on a vu qu'il y avait des side quests où il fallait aller tuer des rats et ce genre de trucs.
Des side quests, des mini-jeux. Mais espérons qu'il y aura des choses plus intéressantes à se mettre sous la main, parce que j'aimerais pas qu'il y ait un effet FF15 sur FF7 Remake, mais alors vraiment pas. Et je crois qu'on est quelques-uns.
Enfin, il est moins ouvert déjà quand même.
Dans ce côté-là. Et voilà, et après, justement, comment ils vont aussi étoffer le scénario, expliquer certaines rencontres, expliquer certains rapports entre les personnages, même si on sent. Et vous l'avez vu dans la démo que Barrett et Cloud, c'est pas le grand amour dès le début. Et Barrett d'ailleurs qui est incroyablement surjoué. Ça c'est vraiment un des trucs. L'acting, l'acting dans la V dans la version anglaise pour Barrett pitié. Est vraiment mais
tout
pas
match.
Bon. Et alors j'ai vu la version française parce qu'on a un lecteur formidable qui a lancé la démo hier soir et du coup j'étais voir son stream Kira si tu nous regardes. Bah la VF de Barrett c'est encore plus catastrophique.
C'est vrai.
Ah là 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 là. C'était mais en même temps pas c'est sûrement surprise. Voulu parce que le personnage c'est il gigote dans tous les sens, il surjoue aussi.
C'est une très mauvaise journée pour Barrett. Hein. Ouais. Il a mal commencé et tout, donc il est vraiment vénère.
Ah oui, il est plus que vénère. Après Cloud, on le sent un peu mieux. Tifa et Aerys aussi, mais bon.
On verra.
Ah, il reste des craintes quand même qu'on peut avoir vis-à-vis de Final Fantasy VII Remake, mais je vois pas comment je pourrais ne pas être hypé par la. Par tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici, même si c'était à la limite un long couloir avec que du combat, je crois que j'arriverai à l'apprécier, donc c'est pour vous dire. Mais ce ne sera pas que ça, il va falloir faire très attention.
D'accord, bah écoute, parfait. Et là, du coup, ce que tu as vu, toi, c'était entre guillemets le premier chapitre de ce qu'ils annonçaient, c'est ça ?
De quoi le premier chapitre ?
La première partie de FZ Remake, puisqu'ils avaient dit qu'ils allaient faire.
Ah, c'est un projet global, ouais. Ils sont en train de bosser sur le.
Mais ils t'en ont dit plus là-dessus
le
ou pas
deuxième
du tout
volet, non.
Non.
Non, non.
Non, par contre, il y a un trailer où on a vu une séquence, je sais pas si elle était dans ta démo, de la conversation entre Cloud et Tifa, où ils se rappellent de certains trucs et où on voit un petit peu, et où on reconnaît immédiatement la ville de Nibelheim, si je dis pas de bêtises.
Par exemple, Nibelheim qu'on voit apparaître beaucoup plus tard dans le jeu.
Voilà, mais donc ça veut dire qu'ils l'ont quand même déjà conceptualisé, etc., et que donc. Le travail, au moins sur le deuxième épisode, a déjà commencé et déjà en route.
Ils ont déjà, à mon avis, la moitié des assets qui sont prêts pour le deuxième épisode et ça va aller beaucoup plus vite. Il y aura pas, à mon avis, tant de choses à faire. Après, le problème, c'est qu'une fois que tu sors de Midgard, normalement, t'es censé être dans un monde ouvert.
Ah, je sens un truc sans world map. Hein.
Ouais. Ouais, ça.
Genre hyper.
Bah, scénarisé en fait.
Scénarisé.
Avec
et
peut-être
et
un petit peu moins.
Directif.
Mais en même temps, tu regardes les FF qu'on suivit derrière. Enfin, après le 9, le 10 était assez dirigiste, le 13 l'était aussi.
Mais le truc, c'est comment. Ah non, Tifa. Pour Tifa et. Je sais plus qui était l'autre personnage. Il y avait un autre personnage. Annexe. Pas Tifa, Yuffie. Il y avait Yuffie.
Ah, Yuffie et... arrive beaucoup, beaucoup plus tard.
Yuffie, tu peux l'avoir dès le départ.
Cette crapule.
Tu peux voir dès la sortie de Midgard, Yuffie.
Oui, une fois que t'es sorti de Midgard, oui.
Ouais, voilà. Et il n'y avait pas un autre personnage à part elle qui n'était pas obligatoire, enfin qui était optionnel. Vincent, on l'a quoi qu'il arrive.
Vincent, ouais, moi j'aurais dit que Vincent était optionnel. Il me semble qu'il faut retourner le chercher.
Mais on sera obligé de les avoir de toute façon.
Bah écoute, je sais pas.
Ils en ont pas parlé, ça non plus.
Alors, nous verrons.
On sait qu'il y a des bonus, on sait que parmi les nouvelles matérias qui seront proposés, il y en a qui sont hérités notamment d'FF8 avec le très bizarre Card Bunkle. Enfin, il va y avoir des ajouts et je pense que mine de rien, tous ces trucs un petit peu optionnels, ça permettra justement de filer un peu à manger aux joueurs qui vont vouloir vraiment poncer le jeu, aller tout explorer de fond en comble. Parce qu'il faut bien donner à manger, quoi.
Et ils ont rien dit sur le prix de l'ensemble. Est-ce qu'il y aura guillemets un saison de passe ou bien faudra payer plein pot sur chaque
t'achèteras chaque jeu comme un jeu entier parce que c'est des jeux entiers tout simplement.
D'accord.
Il y a rien de délirant. Hein. Le jeu va
là,
être
là. Tu as joué 3 heures et à ton avis, il fait combien de temps celui-là?
À mon avis, il y en aura pour 30 ou 40 heures.
D'accord. Ah oui. Donc.
À mon avis.
Ah ben, si au chapitre 10, soit t'es à Abzu, il y a encore de quoi faire derrière.
Enfin, Abzu, j'ai fait 1-2, je suis allé au 7 et ensuite au 10. Hein. Donc j'imagine que entre, il doit y avoir quand même quelque chose.
Oui, non, et puis même après ce combat-là, il se passe encore pas mal de choses avant que vraiment on sorte de Midgard.
Non, mais ça va être plusieurs dizaines d'heures, c'est sûr. Et à mon avis, on va pas s'ennuyer.
Oui, j'imagine. En tout cas, effectivement, ça reste vraiment magnifique. Quoi. Donc, c'est sorti 10 avril, hein, c'est ça?
Absolument, 10 avril sur PS4. Et ça, c'est dur d'attendre.
Et alors, c'est tout con, mais entre le système de combat dynamique et le tour par tour, ça fait déjà deux jeux en un. Enfin, tu vas pouvoir le faire de deux façons différentes. Enfin, en termes de durée de vie, ça s'annonce quand même assez croustillant.
Oh,
voir
oui.
Colossal. Bah écoutez, parfait. Voilà. Hein. Je crois que t'as
rien à dire de
plus.
Que
tu dis, tes impressions.
De toute façon, si j'ai oublié des trucs là, ici, vous inquiétez pas,
plus
les impressions.
Sur Gameblog, 3 heures de jeu, donc de plumes. Si vous voulez en voir plus et en lire plus, n'hésitez pas à aller sur le site donc, pour faire le tour de la question, n'est-ce pas? Donc, sorti le 10 avril sur PS4. Et...
Exactement. Bah, du coup, ça fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux RPG de cinglés.
Exactement, parce que le second thème, effectivement, merci de me tendre la chepère. C'est Camille qui va nous en parler, c'est Baldur's Gate 3
exact.
Qui a été annoncé il n'y a pas très 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 longtemps et que tu as pu voir et faire tiap.
Il y a une belle transition entre les deux, puisque bah, pour le coup, pour ceux qui connaissent bien Baldur's Gate, les premiers étaient en pause active. Dans le sens où en fait alors, rien à voir avec la pause active pour le coup de FF7, puisque vraiment on mettait pause, mais il fallait vraiment mûrir ses réflexions. On était plus dans la réflexion que l'action directe. Et là, Larian, pour ce Baldur's Gate, a fait le choix du tour par tour, puisque bah, ils sont bien au fait avec ce type de combat, puisque c'est ce qu'ils avaient déjà proposé pour Divinity 2, qui était leur précédent jeu, qui était un excellent RPG, qu'on avait noté nous 9 sur 10 sur Gameblog, et vraiment qui était quasiment un sans faute en termes de RPG. Donc de là, RPG même. Que ça soit Larian qui reprenne le flambeau de Baldur's Gate, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors je sais que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde que ça soit du tour par tour, puisqu'il y a vraiment les vieux de la vieille qui espéraient un retour de la pause active, etc. Mais ça sera du tour par tour, et de ce qu'on a vu, ça marche vraiment très bien, puisque comme je vous l'ai dit, Larian est très bien rodée sur le sujet. Alors tout de suite, on va passer dans les comparaisons. C'est vrai que on pourrait se dire à première vue c'est un Divinity 2 reskiné avec du matériel de Baldur's Gate, mais en fait très vite on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus que ça. Alors certes il y a des choses qui sont reprises, par exemple on a vu nous le menu principal, on n'a pas pu jouer, on a vu un développeur jouer devant nous, mais vraiment en conditions réelles, c'est à dire que le jeu, bah, pour vous dire la vérité, il a crashé à un moment, enfin vraiment c'est vraiment c'était pas bullshité, c'est la vraie démo, on voyait vraiment les problèmes qu'il pouvait y avoir, ou au contraire les trucs qui allaient vraiment dans le bon sens. Et du coup on a pu voir donc le menu principal, et dès le menu principal on sent déjà une grosse source d'inspiration sur Divinity 2 en termes de sonorité, dans la musique, etc., dans la terme de mise en scène du menu, dans la mise en place du menu, etc. Et l'éditeur de personnages, puisque bah, comme vous savez sur un RPG old school comme celui-ci, l'éditeur de personnages c'est vraiment un gros morceau. En général on y passe facilement une heure dedans pour créer, fignoler son personnage. Il y a toutes les races de Baldur's Gate qui sont présentes dedans, les races classiques comme les nains, les elfes, etc. On a aussi des vampires, c'est d'ailleurs un vampire qui a choisi le développeur qui a joué. Et du coup là, ah oui non ça c'est, oui d'accord, c'était pour la PAX. Donc il y a vraiment des choix qui sont vraiment colossaux, comme dans Divinity 2, vraiment hein, c'est assez spectaculaire. En plus c'est très très bien animé, donc quand on voit notre personnage, on lui change le moindre morceau de visage, on voit vraiment la différence dans les cinématiques, on voit vraiment la différence lors des dialogues, etc. Donc il y a un gros travail visuel qui a été effectué dès les premières minutes de jeu, d'ailleurs on le voit tout de suite hein, ça a été le moteur de Divinity 2 est repris, mais enfin non, d'ailleurs, il n'est pas vraiment repris. Ça ressemble à certains aspects, mais c'est un nouveau moteur, mais qui reprend quand même pas mal les bases de Divinity 2. Donc ça reste très joli. Il y a des effets d'éclairage qui sont vraiment très beaux, de textures très beaux aussi. Et surtout, là où vraiment tout a été retravaillé, c'est au niveau de la caméra, puisque bah, ceux qui ont joué à Divinity se rappellent, le jeu est vraiment en vue du dessus, avec un zoom qui était possible. Alors que là, on est plus sur une sorte de vue de 3 quarts. On peut même mettre en vue TPS, c'est-à-dire que, alors pour ceux qui sont premium, vous pouvez actuellement justement pas le voir, mais il y a cette vue du dessus.
Non, tout le monde peut voir la vidéo maintenant.
Oui, c'est vrai. On peut zoomer et du coup avoir une sorte de vue TPS pour avoir un travelling qui suit en fait notre groupe de personnages, puisqu'on a quand même un groupe qui peut être constitué de 6 personnages. Donc du coup, forcément, c'est lors des interactions, c'est toujours sympa d'avoir une caméra qui suit vraiment tout notre groupe. Ça permet d'avoir une belle mise en scène. Et on sent vraiment qu'il y a un gros travail esthétique qui a été fait, d'autant plus que bah, les développeurs, on a publié la news sur Gameblog hier. Le travail graphique est tellement important que du coup ils pensent pas que le jeu puisse tourner sur console actuelle, donc sur PS4 et Xbox One. C'est en tout cas ce qu'ils ont répondu au micro d'un de nos confrères, que du coup ça serait très dur dans l'état que ça puisse tourner sur console, et que ça serait, si ça sort sur console, ça serait plus de la PS5 ou de la Xbox Series X, étant donné qu'en plus le jeu n'est pas prévu pour cette année. Il y a uniquement l'Early Access qui sort sur PC cette année, mais le jeu, la release, ça sera pas avant début d'année prochaine, ou vraiment à toute fin d'année, sans plus de précision. Donc bon voilà, à ce niveau là je sais que certains ont posé la question aussi dans les commentaires à propos d'une potentielle version console, que c'est vrai que ça serait sympathique puisque Divinity 2 est sorti sur console, mais malheureusement ne vous faites pas trop d'illusions pour l'instant, en tout cas, puisque même les développeurs eux-mêmes ne sont pas trop au fait avec une version.
Ouais, c'est quand même avant tout un jeu de PCiste, de toute façon, il n'y a qu'à voir l'interface.
Oui, mais justement, Divinity 2, c'est un jeu. Alors, le jeu, c'est quand même massivement vendu sur PC, mais il y a quand même un beau score aussi sur console, notamment sur PlayStation. Ça s'est très bien adapté. Alors ils ont certes changé des choses hein, au niveau du menu. Ils ont changé. Ils ont fait une roue spécifique par rapport au stick, etc.
Est-ce que tu mets ça à un joueur console, il devient fou.
Ah oui, clairement, clairement.
Bah, tu peux pas mettre une barre d'action pour un jeu console.
Oui,
hein, c'est pas possible.
Très clairement, oui. Par contre, il y a des choses qui ont été améliorées au terme de l'interface par rapport à Divinity 2. Désolé, je reprends encore Divinity 2 parce que c'est impossible de pas faire le comparant avec ce jeu. Quand on ouvre maintenant les inventaires, en fait, il est possible d'afficher en une seule fois l'inventaire de tout notre groupe. Et ça, c'est plutôt pas mal puisque ça permet d'avoir en un seul coup d'œil de voir quel personnage a besoin de quoi. Et surtout, si on a un personnage qui est équipé d'une, je sais pas, une amulette spécifique, peut-être qu'on se rend compte que finalement elle irait mieux à notre magicien ou ainsi de suite. Donc vraiment, en un seul coup d'œil, on peut voir les items correspondants à chacune des classes. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Là, vous pouvez le voir, vous le montrer à l'écran. Et en fait, plus on a des personnages qui s'affichent, plus du coup ça dézoome et on peut voir plus de personnages s'afficher en même temps. La barre de skill, par contre, elle est relativement semblable à ce qu'avait fait l'Ariane auparavant. Mais ça reste quand même. On sent vraiment qu'ils ont pioché, évidemment, dans Baldur's Gate d'origine, mais qu'ils ont vraiment pioché dans leur expérience qu'ils ont eue avec Divinity 2. Et de toute façon, ils auraient été bien bêtes de ne pas le faire, puisque le jeu a tellement plu et a tellement été assez inégalé à ce niveau-là que bon.
Bah, c'est surtout que ils ont Divinity qui effectivement est un RPG tour par tour excellent, mais que si tu prends les règles de Donjons et Dragons les plus récentes, ça colle parfaitement en fait. Ouais. C'est deux choses qui peuvent parfaitement s'accorder.
Exactement.
Et d'autant que si pour les personnes qui jouent au jeu de rôle de manière générale, vous savez très bien que ça marche par tour et que ça marche par fraction de seconde où chacun enchaîne les choses comme il peut en fonction de sa vitesse. Exactement. Son agilité, etc. Donc je trouve que ça, au contraire, il n'y a pas vraiment de débat à avoir parce que c'est parfaitement cohérent par rapport à ce qu'on peut faire avec un vrai Donjons et Dragons. Donc chapeau. Mais il y a un élément qui m'a fait un peu tiquer, c'est que on montre les dés. Dans le jeu.
Exactement.
Il y a un D20 qu'on a apparaît en bas de l'écran.
Exactement. En fait, non. Chaque fois que tu fais une action qui use tes compétences, tes skills, en fait, effectivement, t'as un D20 qui apparaît et selon évidemment le résultat, tu as plus ou moins de chances d'avoir que l'action se réalise. Et ça marche à la fois pour des prises de décisions personnelles, de ta propre conscience. Par exemple, tu fais un choix de conscience, tu vas avoir ce dé qui va apparaître, aussi bien que pour des actions physiques, par exemple ouvrir une porte qui est accrochetée, par exemple. Évidemment, ils vont pas te faire ça pour une porte qui est ouverte, dire ah mince, j'ai pas réussi à ouvrir la porte. Non, si c'est une porte, j'ai raté la poignée, ça a pas marché. Par contre, si c'est une porte à enfoncer et qu'on a un personnage, je sais pas, un peu balourd ou un peu vraiment musclé, etc., qui peut avoir potentiellement les compétences pour détruire la porte, le dé va rentrer en action, évidemment, ça va rentrer en action et se corréler avec ses propres compétences. Donc un mec musclé aura plus de chances de bonus dans le lancer de dés qu'un magicien maigrelet. Donc ça rentre en compte. Et effectivement, au centre de l'écran, donc il y a ce jeté de dés qui est lancé et qui est
le lancer
qui permet de se rapprocher du RPG papier. Et tu voulais ajouter
ça, c'est une très très bonne chose.
C'est une
après,
très bonne chose.
Après, moi, mes questions, elles porteraient plutôt sur l'univers et sur tout ce qui va se passer à l'intérieur, les liens qu'il pourrait avoir avec les deux premiers Baldur, avec l'univers des royaumes oubliés que personnellement j'adore.
Alors justement, d'abord, je finis juste sur la partie vraiment purement RPG, donc c'est comme je disais, c'est un système de tour par tour, mais toutefois, si on a un personnage qui n'est pas dans le groupe. Il est possible de continuer à l'utiliser s'il n'a pas été découvert par les ennemis. Tout à l'heure, on l'a vu un peu. En fait, on a système d'aura. En fait, les ennemis, leur vision est symbolisée par une aura rouge sur le sol. Ça permet de voir si l'ennemi vous êtes dans le champ de vision de l'ennemi. Et du coup, ça permet d'avoir un personnage qui est hors combat. Et ce personnage hors combat, vous allez pouvoir le déplacer sans pause, du coup, vraiment en temps réel, et élaborer des stratégies comme ça. Donc, par exemple, nous, le développeur nous a montré, on avait une partie de l'équipe qui était dans un souterrain et l'autre partie qui était hors combat, donc à l'extérieur, et on a pu les placer et aller comme ça prendre par derrière des ennemis et leur donner des coups spécifiques, donc des coups critiques qui permettaient de faire multiplier les dommages. On peut aussi faire des choses assez sympathiques. Par exemple, il y avait un endroit où, alors le développeur était évidemment au courant, mais ça coulait de ses sources aussi, il y avait des cadavres disséminés au sol. On savait plus ou moins que les cadavres allaient se réveiller, que ça allait donner des guerriers squelettes, donc il était possible possible avec le personnage qui était hors combat de sûreté dans les environnements et aller voler les armes des cadavres pour qu'ensuite, une fois que les cadavres se réveillent, qu'il n'ait plus d'armes en fait. Donc ça permet de faire des petites tactiques comme ça. On a aussi un autre truc, c'est que toujours dans ce système de groupe intérieur-extérieur, il y a une grosse verticalité qui a été ajoutée au jeu par rapport au précédent jeu Larian. Alors pour autant, dans Divinity 2, il y avait déjà pas mal de verticalité, mais il y en a encore beaucoup plus. On avait donc ce groupe extérieur qui a pu, au lieu de se taper tout un chemin dans des couloirs tortueux, etc., il a pu interagir avec un morceau de décor à l'extérieur qui s'est écroulé, qui a percé une crevasse dans le sol, et du coup ça a permis d'avoir un raccourci directement dans les souterrains. Donc ça c'est plutôt bien trouvé, et les développeurs nous promettent vraiment beaucoup d'interactions comme ça avec le décor pour avoir une sensation d'exploration et de raccourci supplémentaire, parce que l'exploration vraiment ouais, tu peux aussi faire des sauts.
Oui, c'est surtout là où je vois en termes de pouvoir, ils en ont mis énormément,
bah ouais, c'est bien,
de trucs qui n'existaient pas dans les précédents.
Si, alors je sais plus si.
C'était l'heure le vampire, on l'a vu faire un saut ouais, abusé. Là, il y a le pouvoir de feuilles mortes pour ouais, pour atterrir doucement après un gros plongeon.
Et t'as aussi le une skill qui est qui est très basique, hein, mais tu peux pousser les ennemis dans le vide. Alors ça, évidemment, ça fait beaucoup rire l'assemblée puisque. Ça y est, le développeur l'ont utilisé à moult fois. Donc quand il y en a un personnage qui est vraiment contre un précipice, tu peux avancer en furtif et lui donner un grand coup d'épaule ou le charger
pour son petit effet.
Exactement, pour le faire tomber. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et vraiment, l'exploration est hyper poussée. Ils veulent d'ailleurs récompenser l'exploration par plusieurs choses, par de l'expérience qu'on gagne. C'est-à-dire qu'on a vraiment une
genre en découvrant des lieux.
Voilà. En découvrant des lieux, on gagne de l'expérience. Alors c'est pas nouveau dans le RPG, mais c'est voilà, c'est toujours sympathique pour ceux qui aiment l'exploration. Et évidemment avec des secrets, puisque c'était déjà le cas dans Divinity 2, il y avait des coffres qui étaient disséminés un peu partout, des objets cachés dans des coins dans des recoins de map, etc. Et là, ça sera encore plus le cas. C'est-à-dire que des fois, vraiment, t'as l'impression qu'il y a strictement rien. Et en fait, en fouillant, en passant la souris, le curseur de la souris à certains endroits, tu te dis qu'en fait, il y a une interaction. C'est pas dans un tu sais, le trou d'un arbre par exemple, tu sais, dans les vieux arbres qui sont un peu creux, qui sont morts, bah tu peux tu dire, moi, ton personnage il va fouiller là-dedans, il va trouver une amulette ou un petit truc.
T'avais déjà ce genre de truc aussi dans les premiers
Baldur. Dans les premiers Baldur, c'est vraiment plus encore qu'un Divinity, t'as vraiment l'exploration qui sera plus poussée pour revenir à ce que je disais sur le côté Baldur. Après, évidemment, on n'a pas vu le début du jeu, donc difficile de savoir exactement au niveau du background et de l'histoire générale si ça respectait bien Baldur. En tout cas, ils nous ont promis. C'est ce que les développeurs nous ont promis, vraiment du fan service pour ceux qui ont joué aux deux précédents jeux, tout en n'oubliant pas les néophytes qui n'auraient jamais touché un Baldur's Gate, pour qu'ils puissent eux aussi prendre plaisir à jouer et à découvrir ce jeu. Donc normalement ils devraient en avoir à peu près pour tous les goûts. Il y avait aussi des petites choses qui sont très sympas en termes de choix scénaristiques. On a des personnages qu'on retrouve des anciens opus, notamment le Bard dont je t'avais parlé en entrant de la preview, qui est toujours un peu amusant à nous sortir des. Enfin, c'est un personnage qui était assez iconique en fait de la série. Donc on le retrouve, on en retrouvera d'autres aussi. Mais voilà, ils nous ont pas évidemment spoilé toute l'histoire, puisque le jeu il est censé dépasser aisément les 80 heures. Donc ah là le dé, on l'a vu là.
Ouais.
On l'a vu. Je sais pas si Bouffy tu peux revenir.
On l'a vu plein de fois. Hein,
ah, ouais, dé en or.
On est avant. Mais voilà.
Tu connais le dé magique. Ben voilà.
Oui, il est juste là, regarde.
Donc il y aura pas mal de choses comme ça qui sont en rapport avec les premiers jeux, et aussi évidemment des choix qui sont très nombreux dans les dialogues, puisque encore plus que dans Divinity 2, les choix auront leur importance. C'est-à-dire que il y aura peut-être plusieurs fins, même c'est sûr, il y aura plusieurs fins qui seront disponibles dans le jeu, et en fait chacun de nos choix, même en tout début de l'aventure, aura un impact sur ce qui se passera par la suite. Et évidemment, les personnages retiennent ce que vous faites, donc si vous croisez un personnage meurant au début de l'aventure, si vous lui dites quelque chose qui va le fâcher et que vous le retrouvez plus tard, il va s'en souvenir, et donc du coup faut faire attention à ce qu'on dit, quoi.
Bah non, justement, faut juste les pulvériser, c'est cool.
Mais est-ce que tu peux oublier les personnages que t'as rencontrés?
Non, tu peux les tuer, par contre.
Parce que moi, dans la vraie vie, ça m'arrive tout le temps.
Mais tu sais qu'il y a tellement, de choses qui sont possibles dans le jeu que tu peux. Il y a des exemples de potions que tu peux faire prendre, etc. Enfin, il y a vraiment tout un tas de trucs qui s'intègrent à l'histoire, qui est vraiment
truc et astuce.
Ouais, exactement. Qui est assez extraordinaire. Et voilà. Donc très 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 franchement, de ce qu'on a vu, c'est vraiment un sans faute.
Moi, j'espère juste un truc aussi, c'est que les combats seront pas aussi difficiles que ceux de Divinity 2. Parce que Divinity 2, si tu joues en normal et que tu te dis oh je vais y aller tranquille, bah, tu te fais défoncer et tu te prends des one shots.
Il faut pas l'avoir d'un peu d'XP avant et tout ça.
Alors déjà contrairement au Divinity 2 où t'avais un groupe qui était assez restreint finalement puisque t'avais trois joueurs, enfin trois personnages. Là t'as déjà deux ou trois personnages de plus. Donc déjà t'as une équipe qui.
Ils ont dit 4 pas 5.
De quoi?
Ils ont dit 4 pas 5.
Pour.
Pour les personnages que t'as.
Hein?
Pour les personnages en plus.
T'as zappé, c'était avant, c'était FF7.
Ah
ouais.
On a changé de sujet.
Mais t'es pire que. Julo est battu. Julo est officiellement battu.
T'as combien de persos avec toi?
Normalement, tu peux en avoir un peu plus de 5. Ouais.
T'es sûr de ça?
Ah ouais, je suis sûr. Ouais.
Bah pourquoi? Parce qu'on m'a quand même fait enlever des screenshots où il y avait 5 persos.
C'est
t'as sûr?
C'est peut-être une erreur du truc.
Retire ton masque, Julo.
Je te montrerai l'email. Non, les screenshots avec les 5 persos, faut les enlever en fait, il y aura pas.
Ah, ok.
T'avais peut-être pas le droit de le dire non plus, non?
Peut-être, je m'en fous.
Alors, en tout cas, j'ai pas été au courant si nous l'ont dit, donc voilà. Peu importe. Ouais, bon, bref. En tout cas, t'as au moins un personnage de plus, ça c'est sûr. Ouais,
d'accord.
Et en plus, tu peux, donc du coup, ce système de pause active avec les personnages hors combat, et en fait, il est beaucoup plus. Il est simplifié par rapport à Divinity 2, et du coup, tu peux vraiment. Et simplifier tes stratégies grâce à ça ou au contraire les complexifier et rendre des choses vraiment très intéressantes en termes tactiques quoi. Donc t'as beaucoup plus de facilité par rapport à ça et en plus
c'est Divinity, le vraiment, jeu n'oublions je pas vraiment
qu'il est uniquement jouable en solo. Divinity 2 c'était un jeu qui était recommandé en coopération et effectivement quand tu joues en solo même si la difficulté était adaptée t'avais cet esprit, voilà, si t'as un pote avec toi, ça sera plus simple. Alors que là, le jeu est entièrement solo, donc forcément, la difficulté est beaucoup plus adaptée qu'un Divinity. Quoi.
C'est pas un peu con ça, que ce soit que solo?
Bah, ouais, si j'avais un truc à redire, ça serait à la limite, c'est le seul truc à reprocher.
Parce que c'est le genre d'aventure que t'as envie de faire à plusieurs.
Clairement, ouais.
Chacun avec des compétences, etc. Quoi.
Mais après,
enfin, moi, je suis pas un expert en genre d'RPG, j'imagine que ça doit être plaisant.
Bah, justement, moi, quand ils avaient annoncé le jeu par l'arrière, je me suis dit, ah cool, on va encore avoir un RPG coop. Mais en fait, visiblement, ça s'adapte pas forcément en fait, au scénario quoi. D'accord. Parce que là sans spoiler quand le début l'introduction de départ qui est disponible là, actuellement dans le trailer qui est assez magique d'ailleurs et assez épique en fait ça colle pas vraiment au fait qu'il y ait deux personnages ou trois personnages qui puissent jouer en même temps dès le début du jeu en fait.
Ouais, en plus j'imagine que chacun veut faire un truc différent tout ça, donc ça, ça peut poser
mais surtout qu'en fait au début on est seul en fait bizarre. Au tout début du jeu on est seul donc en fait justifier au terme du scénario en fait t'es pas seul vous êtes deux ou même trois ça me paraît ça
oui, c'est pas
quoi.
Cohérent quoi.
Ouais. Mais en tout cas, ouais, honnêtement, il y a aucun vraiment rien à redire. Encore une fois, surtout, je salue la transparence des développeurs de l'Ariane qui étaient présents avec nous, qui ont vraiment qui ont communiqué sur tout, que ce soit les bugs, que ce soit sur vraiment les défauts visuels qu'ils auraient pu avoir, etc. Ils sont très conscients de l'état de leur jeu à l'heure actuelle. Et très honnêtement, ça augure que du bon. Ça augure que du bon pour ce qu'on a vu. Et il y a peu de chances que ça soit une déception. Quoi.
Et vive la Belgique. Voilà.
Exactement.
Tout simplement.
Et il est prévu pour quand exactement?
Normalement,
il n'y
a pas de date, mais pas avant l'année prochaine. Il y a une Early Access qui est sûr et certain prévue pour cette année, puisqu'ils l'ont annoncé. Et on ne sait pas encore sous quelle forme. Ce sera le jeu complet d'un coup ou alors par système de chapitres. Mais en tout cas, non, le jeu ne sortira pas cette année.
D'accord. Parfait. Bah écoute, merci pour ce tour d'horizon de Baldur's Gate 3. Donc, t'as pu voir très récemment. Et effectivement, bah écoutez, si vous voulez avoir d'autres infos en plus de celles que Camille vient de donner, direction Gameblog et donc la preview sur le site. Merci bien. Donc, il est l'heure de passer au thème numéro 3, mesdames et messieurs. Et cette fois, on va parler d'une petite console qui continue de grimper dans les charts avec tous ces jeux qui font régulièrement les top 5, top 10 et top 100 du monde entier. C'est évidemment la Switch qui vient de fêter ses 3 années.
Oh, c'est incroyable, hein. Moi j'aurais jamais cru qu'elle tiendrait 3 ans.
Exactement.
Non, ça va, je déconne, détendez-vous.
Ce 3 mars 2020, 3 ans donc, sorti en 3 mars 2017. Et ben voilà, hein, c'est... on refait un petit bilan, un petit tour d'horizon pour savoir. Bah, si c'est toujours aussi plaisant, si la console fonctionne toujours aussi bien en termes de vente, en termes de jeux, est-ce qu'il y a assez de jeux parce que ça reste une console portable ou bien
ça reste, bien, console,
ça reste coincé sur la télé.
Ça reste la console d'appoint de à peu près tout le monde et quand je dis d'appoint, c'est la console pas la console secondaire, hein, c'est la console qu'on utilise à peu près tout le temps quand il n'y a rien qui sort sur les autres machines, bah, c'est en ça. Fait.
Non, tout le temps, tout court, en fait.
Ouais. Ouais, Thomas, lui, c'est un gros, gros adepte de la Switch.
Bah, vraiment, quand j'ai relancé...
Il joue la rédac, mais, il joue...
Mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, je passe plus... Tu sais c'est quand il y a un jeu, qui, un très bon jeu qui sort sur PS4 ou Xbox ou PC, en fait, c'est plus ceux-là qui sont des distractions oui. le temps que je retourne à ma Switch.
C'est ça. Moi, j'ai, voilà. j'ai littéralement soufflé sur ma PS4 en la relançant...
pour Death Stranding.
Il y a quelques semaines pour un JRPG, bref. Vraiment, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas utilisé pour jouer un truc. Je mets des DVD dessus, mais c'est à peu près tout. Moi, maintenant, ma console principale, c'est devenu la Switch. Pour tout, tout le temps. Il y a tout dessus, tous les jeux indés qui étaient auparavant exclusifs à Steam sortent dessus. Enfin, c'est dingue.
Bah, c'est ça, ouais.
C'est ça aussi la force, effectivement.
La puissance du catalogue Switch, parce que au départ, c'était une console où effectivement on attendait beaucoup de jeux de Nintendo qui offre vraiment régulièrement. Même si là, il y a peut-être un petit coup de mou.
Ah, attends, il y a Animal Crossing qui arrive, tout le monde va vouloir l'acheter.
Ouais, mais après, je parle en termes de
joueurs
visibilité,
de délai entre chaque gros jeu.
Ah bah,
c'est pas exactement la même chose qu'au tout début.
Non, mais il est deck parce qu'il a pas de news de Bayonetta 3, c'est tout.
Ah, exactement, mais bien sûr, il y en aura.
Mais TKT. Avoir réussi à accueillir à peu près tous les indés, avoir réussi à faire venir des jeux qu'on n'aurait jamais imaginé tenir sur une console portable. Je pense à Doom, je pense à The Witcher 3, qui malgré le fait qu'il fait
hyper beau,
il fait très mal aux yeux, mais ça reste un des meilleurs RPG de ces dernières années, qui est jouable entièrement du début à la fin dans vos toilettes, dans votre lit ou chez le médecin. Donc quand même, c'est une sacrée prouesse.
Wolfenstein,
ouais, 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 absolument.
Doom Eternal arrive aussi.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il
y a des boîtes qui se sont fait une spécialité en fait de faire des portages Switch qui tiennent justement sur une cartouche. Et ça reste à chaque fois effectivement très impressionnant.
Et donc il y a les jeux nouveaux, les jeux d'autres éditeurs, les jeux indés, et puis les jeux anciens, les jeux de la Wii U, hein, qui sont revenus. Et ça se passe super bien pour eux. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais les jeux qui se vendent le mieux finalement sur Switch, c'est peut-être pas des grosses nouveautés. Il y en a peut-être un, c'est une réédition. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un jeu Switch un peu majeur qui sort dans le commerce, nous, en tout cas en France, on le voit à chaque fois, chaque semaine avec les classements du sel. C'est presque automatique. Ouais. Les nouveaux, ils sont là. Et t'as des anciens Zelda
qui remontent,
qui sont toujours présents.
Mario
Kart 8 Deluxe,
pardon.
Zelda Breath of the Wild.
Tout le temps là.
Et toujours là.
Ouais. Des en fait, années après. Dès qu'il y a des vacances, t'as l'impression qu'ils remontent parce que les gens achètent pour partir en vacances d'été, d'hiver, de Noël, etc.
Et c'est des jeux qui ont même pas du contenu supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils ont même pas besoin de faire quoi que ce soit.
Il y a Smash Ultimate aussi qui revient souvent dans les tops, qui lui continue d'être véritablement entretenu par Nintendo sur la durée. Mais... C'est un peu l'exception, je suis d'accord. Pokémon épée bouclier qui va aussi se doter d'un expansion pass dans pas très longtemps.
Pokémon.
Mais c'est vrai que il pondrait un troisième DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. Je pense que ça déplaira à personne.
Bah non, ça déplaira à personne, absolument pas. Mais
un Nintendo.
Mais est-ce que vaut mieux pas plancher sur Mario Kart 9 du coup
Oh, tout de suite de la nouveauté alors que le 8 tu l'as même pas poncé.
Il y en a toujours eu qu'un par plateforme, donc faudrait créer un précédent.
Exactement.
Bah, on peut.
Ça va peut-être arriver. Hein.
Allez-y les gars.
Exactement. On attend le prochain Zelda déjà pour commencer. Mais par contre, on va rappeler un peu le nombre de ventes de la machine quand même.
Ah bah c'est simple.
C'est quand même.
C'est 52,48 millions au 31 décembre dernier.
Exactement. Donc voilà. On va dire qu'elle a dépassé les 53 millions aujourd'hui.
Bon oui, facilement. Là aujourd'hui c'est sûr. Et c'est quand même maintenant la troisième console de salon de Nintendo la plus vendue, puisqu'elle a dépassé la Super NES avec ses 49 millions, et qu'il n'y a plus que la NES et la Wii U, mais là.
Elle a dépassé la Wii U, 15 millions.
Là où ça va être compliqué, la NES, je pense qu'il n'y a aucun
problème.
La Wii,
c'est plus de 100 millions. 60, la Wii, hein.
60
c'est
100, millions pour la NES et 105 millions pour la Wii. Donc ça va être facile pour la NES.
Possible, hein, parce que rappelez-vous de ce qu'a dit Furukawa, il y a un cycle de vie plus long pour la machine. Donc
oui.
Vas-y Thomas, vas-y.
Oui, bah,
étaye ce propos.
C'était une déclaration
intense.
Justement qui a été formulée par Fukawa après la publication des derniers résultats justement financiers et la mise à jour des chiffres de vente dont tu parlais.
Exact.
Sans préciser de quoi sera fait l'avenir, Fukawa rappelait que leur plan pour la console, c'était pas une année, mais au moins à 2 ans en termes de planning de sortie, même de mise à jour entre guillemets hardware. On sait pas trop ce qui se dessine pour l'avenir. Il y a évidemment des rumeurs d'une Switch Pro qui sont incessantes, mais pour l'instant, on ne voit rien venir.
Il y avait aussi les rumeurs d'un Nintendo Direct en février.
Voilà, rappelons-nous. Comme quoi.
Voilà.
En attendant, la console a quand même été déclinée en Switch Lite, mine de rien, en juillet 2010. Enfin, l'annonce en tout cas a été faite en juillet 2019. Ce qui a permis de redynamiser aussi un petit peu les ventes à un moment où il y avait peut-être un tout petit peu moins de sorties first party. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que la stratégie de Nintendo fonctionne quand même plutôt pas mal parce que leur objectif, ça n'a jamais été de voir le modèle de poche vampiriser l'original. Et il y a eu de très bonnes ventes à la sortie de la Switch Lite. C'était pratiquement une console sur deux, 47%. Et on est retombé à 30%, donc on voit qu'ils arrivent à diversifier véritablement leur marché assez rapidement finalement, parce que cette version de poche arrive beaucoup plus vite que par exemple une Nintendo 2DS dans le cycle de vie de la 3DS. Et ben ça continue de marcher, les deux consoles cohabitent tout à fait l'une avec l'autre. Il y a un nouveau modèle de Switch Collector qui a été annoncé pour Animal Crossing, et comme par hasard il y a aussi une Switch Lite Corail qui va sortir pour le même Animal Crossing. Donc on voit très bien que c'est une énorme sortie du premier trimestre pour Nintendo. Et on sait aussi que dorénavant il faut pas s'attendre à avoir des mois à l'avance un planning de sortie extrêmement détaillé. Du temps où Fils Aimé était encore là, il l'avait bien précisé, la stratégie du constructeur maintenant c'est de surprendre, on va dire, et d'annoncer des jeux parfois pour le mois suivant ou en tout cas les mois qui viennent. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'inquiétudes à avoir. On sait même sur les années à venir qu'il y a un certain Metroid Prime 4 qui a priori sortira de toute façon sur Switch puisque le développement a été rebooté. Il y a quand même pas mal de choses qui devraient arriver.
Il y a l'erreur d'un Pikmin aussi qu'ils ont entendu parler.
Oui. Ça va. Ah ben on sait que tant que Miyamoto sera là, de toute façon, il va pousser Pikmin envers et contre tout. Hein. Ça a toujours été un petit peu son cheval de bataille.
Ah ben j'ai vraiment hâte de le voir moi celui-là.
Ah ben tu m'étonnes. Pikmin 3 était tellement intestable.
Exactement.
Et ils arrivent pour l'instant en tout cas à avoir un bon rythme en termes d'annonces. Il y a un équilibre quand même assez subtil qui marche très bien. Et puis là, Poufy nous remontre une pub où on admire des images de Super Smash Bros Ultimate, qui est pareil un moteur incroyable pour la console, qui se fait entretenir sur la durée et les joueurs répondent toujours présents. Et c'est quand même assez dingue. Il y a énormément de demandes de la part des joueurs pour avoir toujours plus de contenu. Bref, c'est un succès, on va dire, insolent.
Ouais. Peut-être un peu trop insolent au regard de certaines tares et failles dont a fait preuve Nintendo par rapport à la conception de la machine. Il faut dire quand même qu'il y a des problèmes de stick. Le fameux... Joy-Con Drift, voilà, qui a suscité l'intérêt de peu près tout le monde ces derniers mois
et consommateurs
pour
aussi.
Lequel on n'a pas eu vraiment de réponse très très efficace.
Mais en tout cas, il y remplace.
Voilà, il remplace.
Gracieusement. Donc.
Mais bon, est-ce que c'est normal qu'il continue à produire des modèles et notamment la Switch Lite, qui elle aussi a des modèles qui en souffrent. Est-ce que, ayant connaissance de ça, ils continuent à écouler des stocks avec des machines qui ont ce problème de Joy-Con Drift, donc de stick qui se bloque sans que vous fassiez quoi que ce soit?
Switch Lite, c'est un peu la merde parce que tu, à part de changer la console,
tu peux pas, oui,
tu peux rien faire.
Oui, et puis les problèmes sont arrivés beaucoup plus vite, mine de rien, sur Switch Lite que sur le modèle classique.
Donc il y a eu ça, et c'est vrai que le fait est que on leur en a pas tenu rigueur finalement, et que, enfin en tout cas les consommateurs leur en ont pas tenu rigueur,
ça a pas changé le fait,
et que ça continue, et que
autant,
tout va super bien, et qu'il y a une console Animal Crossing, et que comme tout le monde ici j'ai envie de la voir plutôt que ma vieille grise pourrie. Donc ouais, ça se passe très bien pour Nintendo, et il y a des grandes chances que ça se passe encore très bien pendant au moins 3 ans.
Oui je pense qu'à mon avis c'est le délai qui se donne pour la suite, et effectivement peut-être que pour contrer les PS5 et Xbox X à venir, ils vont
nous sortir un truc d'un chapeau avant la fin de l'année.
C'est évident qu'ils vont sortir quelque chose. D'ailleurs, récemment tu as fait une news, Thomas, sur
Breath of the Wild 2, s'ils ont moyen, ils le sortent avant la fin de l'année.
Exactement.
Bon, à peu près en même temps, en face des PS5. Ouais,
c'est qu'un Bayonetta, ce serait pas suffisant.
Non. Il faut un gros truc pour contrer. pour vendre des Switch supplémentaires. D'ailleurs, tu disais notamment dans une news que tu as écrite sur Gameblog que Miyamoto voulait, enfin, allait parler prochainement sur quelque chose, mais on ne sait pas quoi.
Oui, oui, Miyamoto doit s'exprimer sur l'avenir, notamment de la console. C'est dans le prochain numéro de Famitsu, daté du 19 mars, mais apparaître le 5 mars prochain. Donc, à J+2, au jour où on enregistre ce podcast.
Tout à fait.
On ne sait évidemment pas ce qu'il y a dedans, mais c'est un numéro anniversaire, justement, qui vise à faire un petit peu le point sur la console. On ne connaît évidemment pas son cycle de vie. Nintendo ne peut qu'espérer l'alimenter sur la durée, mais 3 ans après... Si c'était un modèle classique, on pourrait se dire qu'on est à peu près à la moitié de son existence et de son soutien commercial.
Dans les coups, ouais, c'est ça.
On sait que c'est pas du tout ce qu'envisage Furukawa pour l'instant. Et selon les déclarations officielles, vous les prenez avec les pincettes que vous voulez, les consoles justement concurrentes que sont celles de Sony et de Microsoft ne sont pas censées faire d'ombre, selon le PDG de Nintendo, à la Switch. Grosso modo, voilà. Si on s'en tient en déclaration, Nintendo s'en tape et ne considère pas forcément ses concurrents directs comme justement des adversaires avec lesquels il faudrait rivaliser. Et
ils ont toujours été un petit peu à part de toute façon, hein. C'est pas la première fois.
C'est-à-dire qu'ils ont plus trop le choix en fait.
Oui, c'est ça. Ils ont pris un chemin différent, c'est certain.
Jusqu'au moment où ils ont essayé de rivaliser en termes de puissance, ouais. Jusqu'à la GameCube, ça leur a pas forcément réussi. Ils se sont cassés la gueule à chaque génération. Par contre, dans les mois qui viennent, en tout cas dès le mois d'avril, il y a des analystes, notamment de chez Bloomberg, qui subodorent un début de rupture de stock pour le marché occidental, donc les États-Unis et l'Europe, dû au fameux Covid-19 dont on vous parle depuis quand même déjà quelques semaines.
Surtout BFM TV. Ouais.
Ça pourrait être un peu préjudiciable pour l'entreprise parce que, rappelez-vous, à l'époque de la Wii, elle a fait ses deux premiers Noël avec justement une rupture de stock qui ont duré plusieurs mois. Et à chaque fois, l'action se casse la gueule derrière ça parce que c'est des ventes en moins pour l'entreprise. Et même si la console cartonne, ça peut toujours faire un petit peu mal et ne pas faire le bonheur des investisseurs. Donc il faudra aussi voir quelle va être la réaction des marchés là au premier semestre, enfin au premier trimestre, pardon, de l'année fiscale 2020-2021. Ça pourrait peut-être un tout petit peu moins bien se passer pour l'année fiscale prochaine du côté de chez Nintendo. À voir évidemment en fonction de ce qui va pouvoir sortir des usines de Chine.
Exactement. Peut-être que le coronavirus est l'allié de la Switch. On n'en sait rien.
Peut-être parce que Ring Fit Adventure s'est super bien vendu depuis. Il est en rupture totale d'ailleurs.
C'est vrai.
Donc ouais, c'est possible.
Comme quoi.
Les gens s'ennuient, ils sont chez eux, ils ont un masque.
Surtout en Chine. Hein.
Je vais jouer à Ring Fit, puis voilà.
Exactement. Ringo Fito, même je dirais. Voilà, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur la petite console, hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez toujours autant. On balancera un petit sondage
si
sur
vous
la
voulez
Switch.
Je sais qu'il y a des lecteurs qui s'en sont lassés parce que de temps à autre, il y a pas mal de nos lecteurs en tout cas qui nous font part de la revente de leur console. Ils ont fait le tour et puis ils trouvent plus forcément chaussures à leurs pieds.
Ouais. Jusqu'à ce que Breath of the Wild 2 sorte et ils s'en rachètent une. Parce que forcément là tout le monde craquera de nouveau.
En tout cas après 3 ans de commercialisation, c'est une console qui a quand même réussi sur à peu près tous les plans. Parce que comme Plume l'a rappelé, on a tous les gros jeux, la plupart des gros jeux et d'éditeurs tiers. On a évidemment tous les jeux first party de Nintendo qui en plus sont quand même plus nombreux maintenant qu'ils ont plus de consoles strictement portables à alimenter. Et en plus on a avec l'eShop quand même énormément de titres qui sortent, que ce soit des jeux rétro, que ce soit des jeux indés qui étaient plutôt destinés à sortir uniquement sur Steam à une époque. Et puis aussi il y a des rentrées d'argent avec l'abonnement en ligne maintenant, puisque Nintendo fait payer le jeu en ligne avec cette génération
pour
via
pouvoir aussi
Nintendo
faire
Switch
du rétro
Online,
d'ailleurs.
Pour pouvoir aussi faire du rétro avec la NES, la Super NES. Et il y aurait fort à parier que si les ventes commençaient à baisser, qu'ils annonçaient, allez, la N64 disponible, ça permettrait sans doute de compenser cette mésaventure.
Exactement.
Bref, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses a priori à faire sur la Switch.
Ils ont un plan et ils s'y tiennent plutôt pas mal du tout. Et bien donc, bon anniversaire à la Switch, donc 3 ans en 2020.
Et toutes ses dents.
Surtout l'Animal Crossing.
Et Animal Crossing qui va faire la joie des petits et grands, ça c'est certain.
Ouais, des fortunés aussi.
Ouais, possible. Mais c'est vrai qu'il nous fait de l'œil. Hein. Moi je suis pas.
Oh, pas le jeu, moi je m'en fous. Je sais que c'est la console que je veux.
Pareil, d'accord.
Moi, juste la console, moi.
Écoute, ce qu'on fait, c'est que toi, tu prends le jeu de race et puis.
Je prends la console, voilà. Pas de soucis.
On la recevra pas, je crois pas. Pour être honnête, ça m'étonne.
Oui, c'est sûr.
Je pense qu'elle est trop collector, à mon avis. Ils en donneront pas comme ça. Sinon, s'ils l'envoient, je la garderai et puis c'est tout. Salut.
Ok, attends, je vais sur eBay vite fait.
C'est vrai. C'est discount, on sait jamais. Parfait, donc pour ce troisième thème qu'on vient de clore, on va passer à l'anniversaire. Ah. L'anniversaire, qui c'est qui s'y colle, je sais plus, c'était Thomas ou c'était Plume.
Bon, on peut s'y mettre un petit peu à deux,
c'est
mais.
C'est collectif, il y a tellement d'amour à distribuer.
Moi, franchement, j'ai jamais aimé ce jeu là, pour être honnête.
Tu sors. D'amour et
non, mais vraiment.
Tu sors.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas normal.
Tu sors.
Non, je plaisantais dès ton début.
Ouais. Parce qu'à l'époque, tu testais Toilet Boy ou je sais pas quoi, non.
Exactement. Bah alors, c'est quoi le jeu? Dites-le nous, hein, je vais pas le dire à votre
place. C'est l'un des plus grands jeux de tous les temps.
Toute l'histoire de l'humanité,
exactement.
Chrono Trigger.
Chrono Trigger, on a fait Chrono Cross en novembre dernier pour ses 20 ans. Et ben là, c'est les 25 ans, bordel.
De la sortie japonaise.
Ça fait très très mal au crâne d'entendre que c'est 25 ans.
95.
Un quart de siècle, donc Chrono Trigger qui est sorti sur Super Famicom à l'époque.
Le trio responsable.
Ah ouais, avec effectivement, avec trois personnes de grand talent qui se sont associées pour ce jeu. Qui sont Akira Toriyama, célèbre illustrateur et dessinateur.
Exact.
Yuji Horii, papa de...
Dragon Quest. Et
Dragon
scénariste Quest. De Chrono Trigger, et qui signe voilà. Peut-être l'un de ses plus fantastiques scénarios pour le
c'est
coup.
Vrai. Et Hironobu Sakaguchi, donc le papa de Final Fantasy. C'est un peu la Dream Team. C'est le Dream Game, voilà, tout simplement. c'est un jeu qui est beaucoup lié aux rêves, notamment sous un projet qui s'appelle Radical Dreamers, un projet global. Et c'est.
Radical.
Et c'est quelque chose. Et j'oublie de dire que aux trois messieurs qu'on voit ici se joignent aussi Mitsuda et Uematsu, qui a mis aussi un petit peu sa patte au niveau de la compo.
En support.
Mitsuda qui aura signé un des thèmes les plus géniaux qui soit en hommage à évidemment Rick Astley. Et on vous invite évidemment à retrouver le trivia en question.
Exact.
Où on vous explique que Mitsuda ne savait pas qu'il avait plagié. Never Gonna Give You Up de Rick Astley pour le thème de robot, alors que quand même ça colle à la note près.
Ouais, c'est bizarre,
c'est un peu bizarre, mais bref, c'est pas très grave.
C'est pas très grave,
au moins comme ça on s'en souvient. Mais c'est pas pour ça qu'on s'en souvient de ce jeu. D'abord, on en a été privé en Europe pendant extrêmement longtemps, même les Américains l'ont eu aussi. Là, je parle de la version Super NES. Nous, chez nous, il est pas arrivé avant. L'année 2009 sur DS. Auparavant, il est sorti sur Super NES.
C'est pas si vieux que ça en fait.
Ensuite, sur PlayStation avec une compile qui est arrivée elle aussi aux États-Unis
et pas chez nous.
Alors que pourtant, on avait déjà eu les FF, les Final Fantasy qui étaient Super NES, qui étaient aussi arrivés chez nous quand même en Europe, mais pas Chrono Trigger. Chrono Trigger donc arrivé chez nous. Je le disais, en 2009, et depuis adapté sur iOS, Android, et arrivé sur Steam en 2018. Donc maintenant, on a largement l'occasion d'y jouer, mais c'est vrai que c'était un de ces jeux qu'on enviait fortement en Europe, parce qu'on n'y avait pas accès, tout simplement.
Qui était réservé à l'import.
Exactement, il fallait payer très cher pour l'avoir à l'époque.
Bon, ça et, va.
Moi, je me rappelle de...
J'ai payé 50 balles, moi, ma cartouche en loose.
Moi, je me rappelle de la cartouche américaine...
Non mais quand ça arrive en US tu payes 50 balles.
Ah non, mais j'avais pas les thunes à l'époque.
Sûr.
Je l'ai acheté quand j'étais
étudiant. Entre 600 et 800 euros, ouais, 800 francs pardon. Ouais. Donc non monsieur.
Bah on s'en fout, ça l'est.
Comme le Street Fighter 2 que j'ai payé, c'était 900 francs.
790.
900 francs je l'ai payé. Bon.
Oh putain.
Putain ouais, ma boule.
Bah je sais.
Bah quand on aime. Ouais,
merci Jam Destroy. Souvenir.
Et donc pourquoi ce jeu-là en particulier, pourquoi ce RPG? Donc parce qu'il y a le croisement des effluves de tous ces génies en même temps,
ce qui n'est pas rien quand même pour l'époque, parce que mine de rien, c'est facile aujourd'hui quand il y a une entreprise qui s'appelle Square Enix qui résulte de la fusion en 2003 des deux géants du JRPG que sont Square d'un côté et Enix de l'autre. Mais mine de rien, voir Yuji Horii et Hironobu Sakaguchi travailler ensemble sur un même jeu à l'époque où FF et Dragon Quest se faisaient face de manière assez frontale au Japon, c'était quand même assez maboule. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on envisageait forcément, ça ne tombait pas sous le sens.
Bah même pas du tout.
C'est ce qui a d'autant plus surpris justement les joueurs, parce que c'était effectivement une équipe un petit peu de rêve. Et pour le coup, des fois, les grands noms, ça brasse un petit peu de vent quand ça se retrouve ensemble.
Shadow of the Dam, si tu me regardes.
Là, c'est un petit peu tout l'inverse, effectivement. On va certainement pas comparer ça à Goichi et Mikami, pour le coup. Parce que bah, Chrono Trigger, c'est un carton plein sur à peu près tous les plans, et en fait tous les plans tout court. Le gameplay est absolument fantastique. On a un mélange entre de l'action et du RPG. On a des combats en fait qui se déclenchent via des séquences un petit peu particulières, mais sans phase de transition. Donc on a un petit peu le meilleur des deux mondes. avec en plus une équipe de 3 personnages qu'on peut moduler à l'envi à partir du moment où on les a débloqués et qui, combinés ensemble, avaient des attaques assez uniques en fonction des liens qui unissaient ces différents protagonistes au niveau du scénario. Un scénario justement absolument intestable qui commence de manière la plus cliché possible puisque vous avez cet adolescent
fais-moi rêver
qui se fait réveiller par sa mère dans sa bourgade un petit peu médiévale
pour aller faire la fête du village et
voilà. Ah ouais, super,
pour la fête du millénaire.
Et il rencontre Sonic,
mais tout dérape et il se retrouve propulsé dans le passé grâce à sa chère copine Luca qui merdouille un petit peu la première tentative de sa machine,
d'où Chrono.
Et de là vont découler un tas de voyages dans le temps qui vont nous permettre d'aller, mais alors loin, très très loin en termes d'évolution d'enjeu, pour finalement réussir à sauver toute forme de vie dans l'univers. In fine, c'est un peu ça.
Et le Big Bang, c'est ça?
Non, on va dans la préhistoire, 65 millions d'années avant l'an 0. Mais surtout, tu te rends compte qu'en fait, l'ennemi contre lequel tu vas devoir te battre va à terme détruire toute la galaxie. Voilà, d'accord. Si on le laisse faire. Donc il y a un enjeu absolument phénoménal dans Chrono Trigger.
T'es sur HD là.
Et puis surtout, c'est un peu le jeu du New Game Plus quand même, parce que même quand tu l'as terminé, il y avait déjà sur la version cartouche beaucoup de fins disponibles. Le New Game Plus fait que en fait dès le début vous pouvez relancer une partie et modifier en fait le cours de l'histoire dans les premières dizaines de minutes du jeu, et ça lui confère une rejouabilité absolument folle parce que en fait c'est tout bête, mais le boss de fin vous pouvez aller le battre à plein d'époques différentes et ça modifie finalement la séquence de fin. Et tu parlais de la ressortie Plume sur DS en 2019. Il y a une nouvelle séquence avec un nouveau donjon qui s'est ajouté justement.
C'est avec les hommes lézards, non? Je sais plus. J'arrive plus à me rappeler.
Je t'avoue que je ne sais plus, parce que j'y ai plus joué sur Super NES que sur DS pour le coup.
Je l'ai fait sur DS. Hein.
Moi aussi.
Je l'ai bien reponcé aussi. Mais je sais plus.
Même cette cartouche-là, comment ça va avoir un peu de pognon?
Je crois que c'est c'est une caverne de dinosaures que tu
d'accord,
te fais.
D'accord. Donc à l'époque d'Aïla.
Ouais. Il me semble.
Et puis bon, des musiques, on l'a dit, mais absolument Mitsuda, fabuleuses. Bah oui. C'est une bande-son, mais phénoménale. Mitsuda, en fait, s'est retrouvé à travailler sur Chrono Trigger parce qu'il s'embêtait un peu chez Squaresoft. Et en gros, il est allé gueuler. On lui a dit, bah tiens, ils sont en train de développer un jeu, là, va faire les musiques. Et il s'est tellement investi qu'il en a eu un ulcère, quand même, le con, en travaillant sur les musiques de Chrono Trigger.
Bah, à mon avis, il devait réfléchir. Bon, alors.
Il avait peut-être une deadline
Never
de malade.
Gonna give you up. Comment je vais faire pour pas me faire choper? Comment je vais réussir? Je me suis fait choper. Bah voilà, c'est foutu.
Mais bon, pour le coup, les compositions sont toujours à l'heure actuelle absolument fantastiques. Il y a plein de réorchestrations qui sortent de Chrono Trigger. Je vous conseille de, parmi tant d'autres, The Brink of Time, si vous l'avez jamais entendu. C'est un album jazzy.
Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que c'est un jeu de la fin de la Super NES et que techniquement, il envoie
du bois
incroyablement
à base de mod 7 et des compagnies.
Oh, oui,
oui, puis, quand tu remontes le temps, ouais.
C'est moi qui l'ai fait, le jeu.
C'est complètement fou ce qu'il arrive à mettre en graphisme 2D pour l'époque. Il bat tous les autres jeux de la même catégorie, que ce soit même Final Fantasy VI, en mettant un nombre de couleurs à l'écran, de détails dans les environnements, d'animation pour les petits personnages, complètement dingues. Quand on y réfléchit, le travail qui a été abattu pour ce jeu, il est phénoménal.
On reconnaît même plus le trait de Toriyama que n'importe quel que les deux Dragon Quest qui sont sortis sur Super NES. C'est quand même assez maboule.
Donc ouais, 25 ans, c'est
graphisme mis à jour.
C'est bien mérité pour un bon anniversaire pour ce jeu.
Ah bah ouais, coup là, ouais,
rejouez-y. Enfin, faites-vous un kiff et découvrez ce jeu qui n'a pas pris une ride.
Ça dépend sur Steam. Il a pris des rides ou pas? Je sais plus. Il avait une ressortie honteuse ou?
Oui, c'était. Il s'est tapé, tu sais, ce lissage absolument dégueulasse.
Qu'ils ont réussi. Mais ils l'ont modifié.
Qu'ils ont réussi à rendre optionnel quelques mois après parce que les joueurs ont tellement gueulé.
En même temps,
c'est un pixel art de tellement haut niveau que t'as envie quand même d'en profiter. Et je crois que maintenant, du coup, tu peux choisir de désactiver. Voilà. Et il rejoint un petit
mais
peu
faut
comme
toujours laisser le choix aux joueurs. Je comprends pas pourquoi on prend parti comme ça de casser quelque chose en disant ça va être comme ça et c'est tout.
Bah c'est une case à cocher
tous les jours avec nous. Hein. Tu nous, nous casses tous les jours.
Ok, je vais vous fracasser la face vous le désirez. Parfait. Bah écoute,
pour cet anniversaire, c'est fantastique. C'est un des plus grands jeux de tous les temps, même en 2020. Donc
c'est vrai.
Chrono Trigger, merci à toi.
Quelle classe. Merci beaucoup donc messieurs pour cet anniversaire Chrono Trigger. 11 mars 95, 25 piges
sur Super Famicom.
Et je crois qu'il est l'heure, sans vouloir vous forcer, du hors-jeu.
Ah oui.
Je crois que c'est le hors-jeu, c'est toi qui en parle, je crois.
Ouais, j'avais envie de mettre un peu de gaieté.
C'est vrai.
Dans
on va pleurer ou pas?
dans cette émission. J'ai envie de mettre un peu de gaieté dans votre hors-jeu parce qu'on va vous parler d'un film documentaire.
Ah, j'ai compris un film docu.
Ouais, moi aussi.
Non, on va arrêter un petit peu. Un film documentaire incroyablement joyeux.
C'est vrai ?
Ou pas ? Qui s'appelle « Dis-moi qui je suis ».
Qui tu n'es pas.
C'est un film documentaire réalisé par Ed Perkins, donc, qui est sorti en 2019, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, à la faveur de mon épouse qui commençait à le regarder et qui, au bout de 10 minutes, alors que je pleurais, me fait « Eh ben, tu ne voudrais pas regarder ça avec moi parce que c'est complètement fou ?» Je fais « Ok ». Et je ne pensais pas qu'une heure et demie plus tard, je serais dans un état de dépression aussi avancé après avoir regardé ce truc. Alors là, on en sourit un petit peu, mais c'est vrai que quand on regarde ce film documentaire, il y a une évolution du truc. C'est un peu monté comme un thriller. Il y a une évolution de cette histoire qu'on va nous raconter, qui est mais absolument dramatique. Alors je vais résumer du mieux que je peux ce qui se passe à l'intérieur de ce documentaire. En fait, ça raconte l'histoire de Alex Lewis qui, en 1982, alors qu'il est adolescent, va avoir un accident de moto très très grave qui va le laisser sur le carreau dans le coma pendant un certain temps. Il va se réveiller un peu plus tard et il va se souvenir d'absolument rien. C'est-à-dire que sa mère est à son chevet, il ne la reconnaît pas. Il ne sait pas lui-même comment il s'appelle. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il reconnaît son frère.
Si.
Voilà.
Il
c'est son frère jumeau, absolument.
Voilà. Bah voilà, faut expliquer ça parce que c'est important.
Ou pas. Et il le reconnaît et c'est à lui donc qui va se rattacher pendant tout le reste de son existence pour essayer de connaître son propre passé. Même quand il va rentrer chez lui pour reconnaître le nom des choses, parce qu'il a du vocabulaire mais pas encore suffisamment étoffé. Donc tout ce qui concerne sa vie, son environnement, il va faire confiance à ce frère qui va tout lui dire, tout lui expliquer, et donc il va construire finalement son passé par rapport à ce que son frère Marcus va lui dire. Et là, je vous disais, il y a le nom des choses, ou même ses parents qui ne reconnaissaient pas, mais il y a aussi sa petite amie, ses amis.
Ouais, du truc le plus basique au truc le plus important.
Exactement. Et il explique comme ça, les deux interviennent face caméra, et il explique comme ça, presque souriant, quand j'ai revu ma petite amie, j'ai fait « Ah ouais, je me souviens. » «
Salut
Qu'il a dû faire semblant à chaque fois
de se
remémorer certaines choses.
Et du coup, le barbu qu'on voit, c'est le vrai mec.
Les deux,
okay.
Les deux, c'est des frères.
Ils ont pas évolué de la même façon.
Non, mais parce que ça a l'air d'être tourné. En tout cas, le trailer est monté comme un film.
Oui, ouais, absolument.
Avec des acteurs.
Comme un film. Alors, en fait, il y a des reconstitutions avec des images prises, on va dire, pour. C'est pas forcément
pour
leur maison d'enfance,
ouais.
qui est utilisée. Il y a des photos aussi d'eux qui sont utilisées. C'est pas quelque chose qui est très, très en mouvement en termes d'images, mais le récit que eux deux apportent. Et quelques plans quand même sont incroyablement percutants. Donc ce qui se passe, je vais revenir un petit peu à ce qui se passe.
Parce que ça a pas l'air déprimant ton truc.
C'est que quelques années plus tard, 15 ans plus tard, parents de Alex et Marcus sont morts et ils vont commencer à devoir vider la maison dans laquelle ils n'avaient pas accès à toutes les pièces parce que leur père était très strict.
C'est du pipeau ça ou c'est vrai? D'accord.
Est-ce que c'est leur père qui était très strict? Ça c'est encore une autre histoire. Toujours est-il que il fouille, Alex va tomber sur une photo qui va énormément l'interpeller, mais forcément lui ne peut pas se rappeler de quoi que ce soit. Il va se tourner vers Marcus et va lui demander qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on a un secret? Et pendant des années et des années, Marcus donc va avoir gardé pour lui des choses mais absolument terrifiantes qu'il ne lui dira jamais. Il ne lui aura jamais dit avant la fin de ce documentaire. Et donc, je vous invite, si jamais vous le regardez vraiment, à bien suivre avec attention la façon dont on va arriver à ce dénouement, déjà avec quelques événements qui vont être décrits auparavant, qui sont sordides au possible et qui témoignent vraiment du lien très fort qu'unit les deux frères, à savoir qu'il y en a un qui veut garder quelque chose pour lui pour protéger l'autre et l'autre qui veut justement décharger le gardien du secret pour pour qu'il puisse enfin vivre normalement. Et c'est toute cette opposition entre les deux personnes, celui qui veut savoir, celui qui veut accompagner, celui qui veut aider, la personne qui a le secret et celui qui dit non mais si je te le dis enfin c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi quoi. Toi c'est bien, t'as eu cette chance de d'avoir la mémoire resetée comme on dit. Mais
il y a un truc que je me demande, que je crois avoir compris dans ce que tu viens de dire, tu veux dire que à la fin du docu il lui fait la révélation.
Oui. Quelque chose qui ne lui a jamais...
Il IRL, il filme la première fois où le mec lui balance justement le secret qui a été gardé pendant
très longtemps.
Absolument. Bah, apparemment, okay. C'est ce qu'il dit.
Ouais. Il y a un petit côté voyeuriste du coup aussi.
C'est... Ouais, mais en même temps... Enfin, moi, je vous le dis tout net, Marcus, je l'admire énormément. Après avoir vu ce documentaire, le mec, pour moi, c'est...
Ah, c'est pour ça que t'as mis sa photo
il
en
a
fond
fait,
d'écran.
Il a vraiment fait quelque chose, de, pour moi, de très courageux. Après, c'est normal à un moment aussi, quand... Quand Alex, donc l'amnésique, demande quelque chose, c'est normal de lui dire. Mais il a fait des choses qui sont très, extrêmement courageuses pour essayer de maintenir justement un équilibre pour cette famille, qui est quand même une famille du coup qui est très très meurtrie. Et vraiment, c'est chapeau bas sur ce film documentaire. Je crois qu'ils ont fait un bouquin aussi ensemble où ils parlent justement de ce passé qu'ils ont en commun, et je crois que justement à ce moment-là il lui avait pas encore raconté non plus cette dernière révélation. Et voilà, si vous avez envie vous flinguer tout simplement,
je crois savoir ce que c'est la révélation, mais je le dirai
bah écoute, on en parlera peut-être après. Toujours est-il que Poufy par exemple est revenu avec deux entailles sur les avant-bras une fois que je lui ai dit, et donc très 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 intéressant et très 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 percutant.
Bah, c'est intriguant en tout cas, hein, ça donne envie de regarder du coup.
Ça donne vraiment un sacré coup de poing dans la tronche.
Presque et... par voyeurisme, mais parce que c'est
si le côté voyeuriste, je peux comprendre ce que dit Thomas, mais en même temps, ce genre d'histoire, il faut les raconter.
Non, mais je dis ça parce que c'est le fait de filmer la réaction pour la première fois devant caméra, tu vois.
Parce
c'est...
qu'en fait, il lui laisse le choix de le voir ou de pas le voir. Voilà. Et en même temps, il a aussi peut-être une crainte. Ça, je vous laisse voir quand vous aurez l'occasion de le visionner.
C'est bon, on te rase à deviner la fin de toute façon.
Exactement.
Ouais, bah il l'avait écrite même.
Exactement.
Donc il voilà, dis-moi qui je suis. C'est sur Netflix depuis quelques semaines maintenant. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien.
Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Hein. Du coup, ça donne envie d'aller voir.
Une heure et demie à peu près.
D'accord, donc ça
une heure et demie de rire et à se taper sur les
ah non, mais au début, de joie. Vraiment au début, quand ma femme me montre ça, je me dis putain, je me dis juste c'est ouf et tout, ça va, c'est pas mal, machin, mais c'est après où ça devient vraiment très triste.
Et là,
mais au début,
tu te dis
c'est quand même ouf que, enfin, scientifiquement, qu'un mec puisse perdre la mémoire de cette façon, voilà, mais être toujours lié à son frère. Moi, je pensais que ça allait tourner autour de ça.
C'est la gémellité du truc qui fait que... Ouais. Ouais. Mais en fait, non, il y a encore autre chose. Bah, écoute, on ira voir par nous-mêmes. Merci beaucoup pour cette découverte. N'est-ce pas ? Dis-moi qui je suis, donc sur Netflix, docu par Ed Perkins. Parfait. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actu de cette semaine. Hein. On ne sait pas ce que nous réservera celle de la semaine prochaine, hein, avec d'autres annulations, d'autres trucs un peu zarbi. On attend de comètes sur la tronche d'ici pas longtemps.
Mais ce qu'on sait, c'est qu'on aura quelque chose de spécial dans quelques jours.
Exactement.
Voilà. Ça, et c'est si vous êtes déjà en train de l'écouter pendant le week-end, vous aurez vu que ce quelque chose de spécial est déjà en ligne.
Exactement, tout à fait. Voilà. Tu as parfaitement raison. Sur ce, messieurs, on se dit au revoir. On dit au revoir à toutes les gameblogueuses et toutes les gameblogueurs. Merci de nous écouter, donc en podcast, hein, un peu partout. Sur SoundCloud,
la
vidéo pour tous maintenant, vous le savez. Et les commentaires, évidemment, sous la vidéo ou sur YouTube. Soit dans la news, soit sur YouTube, comme vous voulez.
Partout.
Exactement. Merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un nouveau podcast. Si tout va bien, n'est-ce pas ?
Si on n'est pas tous chez nous avec un masque sur la bouche.
On a voulu faire le podcast avec des masques, mais il n'y en avait plus, donc. Malheureusement.
Oui, on voulait acheter des pâtes aussi, puis il n'y en avait plus non plus. C'est ça qui est dingue. Hein.
La pasta, la pasta ouais. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Portez-vous bien, soignez-vous bien, et puis surtout, jouez bien, les gars et les filles.
Et lavez-vous les mains comme il faut. Hein.
Ouais, et lavez-vous les pieds aussi. Ciao!
Salut!
Ah, c'est vrai ça?
Ça c'est vrai ça!